Je suis heureux de pouvoir être ici de nouveau aujourd'hui. J'ai vu beaucoup déjà de personnes qui sont venues de très loin, de Chicago, de Illinois. Et je vois maintenant ici un homme de la Californie. Il est seulement passé très rapidement et veut ensuite repartir. D'autres sont venus d'autres régions. Et quelqu'un a même apporté à la maison un panier plein de pommes. Que Dieu le bénisse. Les pommes étaient très bonnes. Et d'autres ont apporté d'autres fruits et de la nourriture. Vous savez, en ce moment, je ne mange pas, je fais que grignoter. Ma mère est décédée et je cherche le Seigneur pour qu'il me donne une vision. Je m'éloigne des repas copieux et chauds. Je fais que manger des choses simples. J'ai beaucoup dépéri en quelques jours. Je ne suis pas en train de jeûner, non, non. Ça, je ne le fais pas, non, mais je m'éloigne de certains repas. Et comme je l'ai dit déjà dimanche, et que vous avez reconnu et constaté, ceux qui se sont occupés de ma mère, et je veux dire merci, j'ai oublié deux sœurs, la sœur Bila et la sœur Steffi, qui aussi se sont occupés de ma mère. Je voudrais oublier personne et malgré tout, je ne peux pas toujours tout mentionner et mentionner tous. Si je mentionne quelqu'un avec cela, déjà je vous ai mentionné tous. J'ai pensé à vous tous. Je voudrais de tout mon cœur vous remercier, vous tous qui avez été si gentils et qui avez fait tout ce que vous pouviez faire. Cela, nous l'avons beaucoup estimé. Bon, ce matin, nous allons essayer de nous approcher de la parole de Dieu et je voudrais expliquer certaines choses pour que cela soit clair pour tous et que cela soit entendu. Je ne viens pas dans une réunion seulement pour être vu. Je ne viens pas pour seulement dire ou bien alors demander au Seigneur de remplir le temps et que tous se sentent bien et louent et exaltent. Nous avons eu assez de ces choses. Nous estimons cela, c'est bien, la louange. Et glorifie le Seigneur, mais je voudrais savoir, Seigneur, dirige mes pensées, accorde-moi quelque chose qui pourrait aider ton peuple, qui pourrait les approcher plus proche de toi et qui pourrait produire un effet en eux pour qu'ils puissent spirituellement vivre plus proche de toi et encore plus dans la connaissance de Dieu, grandir, marcher plus proche de lui et avec lui. Et j'ai parlé avec une sœur, la sœur Palma, qui sont en visite chez nous. Et elle disait, frère Branham, comment est-ce que ici tu peux habiter dans cette région? À chaque fois que quand je viens, elle pense qu'elle se sent elle se sent pas bien du tout. C'est un climat qui n'est pas bon pour la santé. Et bien sûr, ça je le sais aussi. Un jour et maintenant, je cherche le Seigneur et je voudrais avoir un message, recevoir un message clair du Seigneur pour savoir ce que je dois faire. Je m'éloigne, je m'attache de cela, à ça jusqu'à qu'il le fasse. Car je ressens qu'il y a encore quelque chose qui doit se passer et les préparations pour cela vont être prises. Il faut que cela vienne directement de Dieu pour que je puisse dire « Ainsi dit le Seigneur ». Et ensuite, c'est ainsi que tous sauront que ce n'est pas moi, mais que c'est le Seigneur. D'abord, il faut que je l'entende de lui. Et si c'est sa parole, alors c'est bien. Vous voyez, il est celui qui parle et qui agit. Vous voyez, si un homme parle de son propre chef, cela ne produira aucun effet sur le peuple. Mais si la parole du Seigneur est dans l'homme, alors qu'elle puisse être prononcée de sa bouche, et ce sera juste et correct. C'est comme ça que nous avons été enseignés dans la Bible, à peu près dans Deutéronome chapitre 18, verset 22. Il est dit que si quelqu'un au nom du Seigneur parle et que cela n'arrive pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Ne le craignez pas. C'est par audace qu'il a parlé. Mais si cela s'accomplit, craignez, car le Seigneur est avec lui. Vous voyez, Dieu a son programme qu'il a déjà manifesté dans la Bible et c'est ainsi qu'il manifestera les choses. Bon, Et l'Église qui attend ce temps, alors il met une voix dans un homme pour parler à son peuple. Vous voyez, nous devons vraiment observer de telles personnes pour savoir si cela s'accomplit ainsi ou pas. Car si cela vient ainsi, c'est que ça vient du Seigneur, et ainsi nous avons notre confiance et nous nous préparons jusqu'à, ou alors pour le moment où cela s'accomplira. Je voudrais lire d'abord dans Exode, car c'est la même chose qui est écrit dans Job 32, verset 8, et dans 2 Samuel 23, verset 2, dans l'homme, c'est l'esprit. Ici, dans Exode, chapitre 4, Exode, chapitre 4, et je voudrais dire ces versets et annoncer avant que vous, pendant que vous êtes en train d'ouvrir les versets, que je voudrais parler avec vous de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je ne sais pas ce que vous allez en faire. Peut-être que c'est seulement que cela concerne seulement une seule personne, ou bien une église, ou bien quelqu'un qui n'est même pas ici aujourd'hui, qui l'acceptera, je ne sais pas. Le dernier dimanche, j'ai eu à parler de du véritable témoin. Et aujourd'hui, je voudrais parler de du véritable signe qui n'a pas été perçu. Le frère Payner, le dernier jour, m'a dit et a demandé qu'est-ce que j'ai voulu dire concernant donc les dérivés du chemin sur lequel le Seigneur, sur lequel l'Église est venue. Il y a eu tant de déviations et de dérivés, et il y a plusieurs sortes de branches qui ont apparu, et j'ai dû regarder dans mes notes ce que je voulais dire. Et ces dérivés, j'ai eu déjà à parler de 4 dérivés, mais en fait, ce que je voulais dire, c'était les 4 devoirs de l'Église. Et peut-être que je vais revenir à parler de cela. En fait, j'ai besoin de plus de temps pour rentrer dans ces choses, pour les apporter d'une manière que vous puissiez bien tous les comprendre. Partout, les bandes sont écoutées et on doit être positif et être certain de ce qu'on dit. Et ici, nous avons le plus grand devoir de dire au monde entier ce qui doit être dit, et c'est la vérité. Et nous devons être exacts avec la vérité. Et nous abandonnons seulement en cela, en Dieu. Dans Exode chapitre 4, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Exode 4, verset 1. Et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-la par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ensuite, l'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il met sa main dans son sein, puis il la retira et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Verset 8, s'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Vous voyez, ici, il y a 2 signes. Chaque signe avait une voix. Laissez-moi relire le verset 8. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe. Ils croiront à la voix du dernier signe. Au verset 9, s'ils ne croient même pas à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Et ensuite, dans l'évangile de Jean, le premier chapitre, le verset 6. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour... Un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, envoyé de Dieu. Et ensuite, Ézéchiel 24, 24. Je voudrais lier ces écritures de l'Ancien, des prophètes au Nouveau Testament pour que vous puissiez comprendre. Car cela va dans tout le chemin et cela est vrai, du commencement jusqu'à la fin. Ici, vous ferez exactement comme il a fait. Ézéchiel sera pour vous un signe. Ézéchiel 24, la fin du verset 23. Ensuite, verset 24. Vous ferez Ézéchiel sera pour vous un signe. Vous ferez exactement comme il a fait. Et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Nous voulons courber nos têtes et demeurer dans le recueillement devant le Seigneur. Prions. Père céleste, nous venons à toi. Au nom de Jésus-Christ, à toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous venons à toi en sachant que tu nous exauces. Car nous ne venons pas en tant que quelqu'un qui est seulement venu dans ce bâtiment, mais en tant que des personnes, en tant que des croyants qui viennent dans la foi et qui sachent ce que tu as promis. Et ils sachent que tu l'accompliras. Nous te demandons aujourd'hui que tu puisses prendre chacun ici individuellement qui est présent. Ici, à partir du podium jusqu'à le dernier à la fin du bâtiment. Et que tu puisses ouvrir chaque cœur. Et que tu puisses circoncire nos oreilles pour que la parole du Dieu vivant puisse descendre du haut des cieux et se répandre dans nos oreilles, dans nos cœurs, pour que nous puissions croire pendant que nous écoutons la parole du Seigneur. Et comme il a été lu, et que nos oreilles l'ont entendu ce matin, nous te remercions pour ta parole. Ta parole est la vérité. Et nous voyons les heures mauvaises, les heures difficiles qui s'approchent, et la colère de Dieu s'approche. Et dans quelques moments, quelque chose pourrait se passer sur cette nation, sur ces nations qui t'ont abandonné. Que une grande explosion aura lieu. Et cette nation sera complètement détruite de la carte et du monde. Disparaîtra. Ô Seigneur, nous devrions vivre dans ta directe présence et malgré tout, tous sont en train de s'éloigner de toi, au lieu de se rapprocher de toi. Et comme c'est écrit dans les livres de l'Apocalypse, et dans toutes les Écritures, il a été dit que cela va s'accomplir. Oh, que nous puissions prendre au sérieux l'avertissement. Et ne pas être comme ça, lent et endormi. Que nous puissions nous lever et être ébranlés, être réveillés et avoir la compréhension aujourd'hui comme jamais auparavant. Pour ce que tu as promis, et que nos cœurs soient pleins de feu après ces jours, que un feu soit allumé dans nos cœurs qui puisse se propager dans ce pays et que partout nous soyons un témoignage vivant soit apporté. Bénis et guéris les malades et ceux qui sont présents. Visite chacun de nous et partout où ils sont. Que ton peuple soit béni partout, par toi. Bénis ta parole, Seigneur. Sanctifie ton serviteur et tes serviteurs qui écouteront qu'ensemble nous puissions être apportés là où, dans l'état où nous pouvons être rapprochés de toi dans une relation intime avec toi maintenant avant ton retour. Pas seulement ça, mais je prie aussi pour ceux qui sont présents, pas seulement pour ceux qui sont présents, mais pour ceux aussi qui écouteront ces cassettes et ces bandes dans le monde entier, que eux aussi ils soient apportés dans l'église du Dieu vivant. Car nous reconnaissons qu'il n'y a qu'une seule possibilité pour que nous devenions membres du corps de Jésus-Christ. D'abord par la nouvelle naissance, par l'Esprit de Dieu, nous devenons membres. Car ensuite, par un seul esprit, nous serons, étant devenus membres, baptisés dans un seul corps pour être conduits et dirigés par la tête. Oh, nous t'apportons la gloire et l'honneur. Reçois tout l'honneur. Que nos âmes soient préparées de cette manière. Qu'il y ait un cri dans nos entrailles. Et cela dans le monde entier. Et que nous puissions dire, viens bientôt, Seigneur Jésus. Nous te le demandons dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Un vrai signe qui n'a pas été perçu, non perçu. Beaucoup de personnes ont cherché des signes du temps de Pharaon jusqu'à dans le jour d'aujourd'hui. Et Jésus déjà nous dit qu'un jour viendra où ils chercheront des signes. Et il a parlé et il a dit, une nation pervertie cherche un signe. Une mauvaise nation, une nation méchante et pervertie. Et ils recevront ce signe. Cette génération-là doit recevoir le signe de la résurrection. Et c'était une nation pervertie et mauvaise. Et ils ont reçu le signe de la résurrection. Cette écriture qui est devant nous. Et Ézéchiel 24, versets 23 et 24. Ce prophète était un signe. Et ça, c'est le signe duquel je veux parler. L'homme est devenu un signe pour Israël. Il a été fait de lui un signe. Et par toutes les écritures, au travers de toutes les écritures, Dieu a toujours utilisé ses prophètes en tant qu'un signe. Mais ils n'ont jamais été perçus. Cela semblait qu'on n'avait jamais compris le signe que Dieu donnait. Ils ont toujours attendu un signe par lequel ils devraient être réveillés. Ils ont parlé à l'époque au Seigneur Jésus, montre-nous un signe du ciel. Mais il a dit, vous avez déjà un signe que vous avez vu qui est parmi vous et vous pouvez discerner les signes des temps. Vous pouvez dire quand est-ce que la pluie tombera, quelle sorte de tempête, etc. Mais s'ils voulaient un signe, ils auraient dû regarder à lui car il était le signe de Dieu dans son époque. Car les prophéties des prophètes faisant mention de lui était accompli devant leurs yeux. Comme c'était étranger de ce que des hommes agissent de cette manière. Ils regardent toujours à des signes. Et le signe est au milieu d'eux et avec eux. Et parmi eux et devant eux. Israël était dans cet état. Venu dans cet état. Et parfois, c'est aussi eux. Donc, c'est les douleurs et les problèmes et les difficultés par lesquelles ce signe doit passer. C'était étrange de voir par quelle difficulté Jésus qui était un signe devait passer pour prouver quelque chose que justement il était le Messie. Nous constatons ici ce jeune prophète Ézéchiel, appelé Ézéchiel. Il a été continuellement un signe. Et il, regardez par quelle difficulté il a dû passer et par quelle détresse il a dû passer. Une fois, il était couché 390 jours sur un côté et Dieu lui a donné des instructions et des ordres dans ce qu'il devait faire exactement. Et toutes ces choses-là lui ont été arrivées. Il lui a été dit ce qu'il devait faire, etc. Et qu'il devait rester 390 jours couché sur le côté gauche en tant que signe. Pensez à cela. Ézéchiel 4, à partir du verset 5. Ensuite, il a été dit, et couche-toi encore 40 jours sur ton côté droit. Ézéchiel 4, verset 4 et 5. Et ensuite, il a dû parler et il lui a été dit, tu portes la méchanceté du peuple et je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leurs iniquités. Car ça a été le nombre des années dans lesquelles ils devaient être livrés à cause de leur méchanceté. Et leur méchanceté va demeurer devant les yeux de Dieu et il n'exercera pas la prière. Mais regardez par quelle difficulté l'homme a dû passer. Pourquoi est-ce que cela était nécessaire? Bon, beaucoup se sont posé la question, mais pourquoi est-ce que de telles choses sont nécessaires? Qu'un homme doit passer par de telles difficultés? Justement, parce que les hommes ne lisent pas la parole de Dieu et ne prient pas, ne passent pas du temps dans la prière et ne lisent pas les Écritures. C'est peut-être raison que Dieu, dans sa sévérité, a envoyé son prophète pour qu'il soit un signe pour son peuple. Mais les hommes ne lisent pas et les hommes ne perçoivent pas cette signification des choses et ils ne passent pas du temps dans la prière parce qu'ils ont sont occupés par trop d'autres choses et ils ne trouvent plus de temps pour demeurer dans la prière devant Dieu comme nous devrions le faire en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons dans ce temps moderne aujourd'hui tellement de choses qui nous occupent et qui dérobent notre temps. Mais est-ce que le Seigneur n'a-t-il pas dit et n'a-t-il pas laissé dire, vous êtes comme une lettre lue par tous les hommes? Le peuple de Dieu est comme un signe. La vie de chaque croyant est comme un signe. Dieu a des signes, Dieu montre des signes. Et souvent, toujours, le signe est toujours parmi les élus. Leur manière de vivre est un signe du retour du Christ. Mais il est pas perçu et on se moque d'eux. Même dans l'Ancien Testament, dans les jours des prophètes, on a toujours pensé qu'ils sont dérangés dans leur tête. Les prophètes étaient nerveux. On pensait que quelque chose n'était pas normal avec eux. Et on les voyait venir du désert, sortir du désert et apparaître parmi le peuple et ensuite repartir dans le désert. On s'est moqué d'eux. Pourquoi? Car les hommes n'ont pas connu les Écritures. Comme Jésus dit aux pharisiens autrefois dans Matthieu 22 au verset 29, alors qu'on lui a posé la question par les sadducéens concernant la résurrection. Et ils ont dit, mais la loi dit que si un frère meurt et qu'il laisse une femme et qu'il n'a pas d'enfant, son frère doit marier et la femme de son frère, etc. La marier. Ensuite, ils ont dit, mais il y avait une femme, elle avait eu 7 frères après, et après, ils sont morts. Et qu'est-ce qui va se passer après avec elle, de la résurrection? La femme de qui elle deviendra de ces 7? Et oh, j'aime lire la parole de Dieu. Jésus a dit, vous vous égarez toujours. En tout temps, vous ne connaissez ni les Écritures et ni la puissance de Dieu. Oh, comme il le dirait encore aujourd'hui, s'il était ici. Toujours, il s'égare parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures et la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu est toujours en relation avec les Écritures. C'est-à-dire qu'il s'égare gravement. Vous voyez, dans la résurrection, on ne mariera pas et on ne se mariera pas. Mais nous serons comme des anges. Pas des anges, mais comme des anges. Bien sûr, nous ne marierons plus. Non. Non, ici nous vivons dans ce temps de la mortalité. Mais là-bas, nous serons dans l'immortalité. Ce sera un royaume incorruptible, immortel. Donc le temps arrive où l'incorruptible, le royaume incorruptible commencera et apparaîtra et viendra. C'est là que les rachetés seront. Ceux qui ont la vie dans ce corps, et ils iront à Dieu et seront avec lui pour toujours. Bon, ce jeune homme, ce prophète Ézéchiel, il s'est donné comme un sacrifice et sa vie est devenue un signe pour les hommes, c'est-à-dire pour la condamnation qu'ils allaient recevoir. Bon, aujourd'hui, c'était Ézéchiel 4. Aujourd'hui, nous voulons dire qu'ils étaient sans souci. Ils ne voulaient en fait pas savoir de Dieu. Les prophètes, ils se sont moqués des prophètes. Mais ça n'avait pas d'importance. Comment est-ce qu'ils ne voulaient pas prendre part à ce que Dieu faisait? Malgré tout, Dieu leur a placé un signe parmi eux et leur a donné cela parmi eux. Ézéchiel, par exemple, ils ne voulaient Ézébiel. Jézabel ne voulait rien avoir à faire avec Élie, pourtant c'était son prophète. Et elle a reçu ce signe qui était Élie. C'est ainsi encore avec cette nation aujourd'hui. Vous voyez, Dieu honore sa parole. Et Dieu, le Dieu sincère, il ne peut jamais laisser le peuple comme ça aller. Il va devoir le juger. Bon, sûrement que nous avons assez entendu. Et il y a beaucoup qui ont une compréhension, assez de compréhension des Écritures. Ils savent ce qui doit se passer et ce qui doit être. Mais Noé, par exemple, Noé était un signe dans son temps parmi le peuple. Il était un signe du jugement qui allait venir. Noé, dans son temps, a été considéré comme un fanatique. Il était un prophète. On pensait qu'il n'est pas normal dans ses compréhensions, dans sa tête. Car des années après années, il a fait que bâtir un bateau. Il n'y avait même pas d'eau sur terre où l'arche aurait pu nager et flotter. Mais il a dit à l'avance, et il a annoncé à l'avance quelque chose qui était contre la compréhension humaine. Et il a dit que l'eau viendra d'en haut et d'en bas, des sépulcres et du ciel. Et il y en a qui ont dû sûrement dire, montre-nous où est-ce que cela doit venir. Et la science de l'époque aurait pu dire, nous pouvons prouver qu'il n'y a pas d'eau dans les nuages. Mais si Dieu dit qu'il y aura un déluge, alors Dieu lui-même fera en sorte que cela se passe. Vous voyez, il n'y avait pas encore d'eau, il n'y avait rien à voir qui pourrait annoncer une pluie. Et jusqu'à là, il n'y avait jamais eu encore à voir un nuage, même une goutte d'eau qui aurait coulé. On ne connaissait même pas ces choses. Et malgré tout, Noé, pendant tout ce temps, a préparé pour la pluie qui allait venir. Vous voyez, c'était pas visible, c'était pas quelque chose de visible, mais c'était une preuve que le prophète croyait ce dont il disait, car il a déjà préparé les préparations pour échapper à ce qui allait venir. Et chaque personne, n'importe quelle personne, qui vraiment croit ce qu'il dit, va aussi vivre selon ce qu'il dit, va se préparer pour ça. Peut-être que je devais ici stopper et dire quelque chose. Jésus dit, par exemple, tel que c'était du temps de Noé, c'est ainsi que ce sera dans les jours où le Fils de l'homme se manifestera. Si l'Église aujourd'hui croirait réellement ce qu'elle écoute, alors elle allait aussi mettre en pratique ce qu'elle a écouté. Si nous ne pratiquons pas ce que nous écoutons, ça veut dire que nous n'avons pas cru. Il y a de grands programmes aujourd'hui, des millions et des millions. Toutes sortes de choses, des organisations font toutes sortes de choses. Et tous prêchent et disent, Christ revient bientôt. À chaque moment, ce sera possible qu'il revienne. Mais, comment est-ce que nous pouvons regarder nos églises et nos réunions? Regardez comment ils sont divisés les uns avec les autres. Les uns partent les uns contre les autres. Et ils sont sans la puissance d'en haut. Et nous les permettons de vivre comme ils veulent. Vous les prédicateurs. Tous parce que vous voulez être bien vus. Et parce que c'est comme ça dans les opinions des hommes. De vivre de cette manière. Et une organisation veut être plus grande que l'autre. Comment est-ce que nous pouvons pratiquer ce que nous prêchons si nous vivons comme ça, comme le train de ce monde? Pensez à cela. Vous voyez, Les religions sont devenues une chose. Une chose qui appartient à une certaine organisation, ou alors comme on appartient à une certaine organisation, bien à une certaine société. Mais où est le salut, le salut du Christ? Où est le Christ? Il ne s'agit pas d'avoir une église et d'appartenir et d'être une membre de quelque chose, mais d'avoir une expérience vivante avec le Dieu vivant. Bien sûr, Noé a confirmé par ses œuvres ce qu'il croyait, et c'est ainsi qu'il a parlé de ces choses qu'un jugement avec de l'eau viendra. Et Dieu va du haut des cieux faire tomber la pluie et détruire et frapper toute la terre. Et pas seulement cela, mais il a même aussi préparé un chemin d'échappatoire. Mais les hommes n'ont malgré tout pas écouté et prêté l'oreille à Noé. Noé, en tant que prophète, était un signe pour cette génération. Un signe sur lequel ils ont mal parlé. Un homme duquel on disait toutes sortes de choses, on le calomniait, on le considérait comme quelqu'un qui n'était pas normal. Car jamais, nulle part, il y avait une preuve que ce qu'il annonçait, que la chose qu'il était en train de préparer, allait être un jour utilisée. C'est ainsi encore aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens pensent pensent à toutes sortes de choses pour se protéger. Ça sert à quoi toutes vos choses dans lesquelles vous pensez vous protéger? Ça ne sert à rien si ce n'est pas biblique. Les chrétiens, vous voyez, ont une espérance. Comme je l'ai dit il y a quelques dimanches d'ici, quelque part, vous voyez, ce n'est pas une certaine protection faite par un homme qui pourra nous garder. Nous devons être en Christ. Nous devons être avec tout notre cœur, notre être. Nous devons être en Christ. C'est la seule protection. En lui, c'est ainsi que nous sommes protégés. Dans sa parole, en lui, dans son esprit, dans sa nature. Noé, un homme considéré mauvais par la prédication folle, par la folie de la prédication et son œuvre, c'est ainsi qu'il a donné un avertissement à cette génération, à ceux qui... Et c'est ainsi qu'il a condamné le monde d'autrefois en ce qu'il a bâti cette arche et qu'il n'y avait pas d'eau. C'est justement par son œuvre, par sa façon de vivre, par son action, qu'il a condamné le monde qui l'entourait. Et c'est ainsi qu'il a sauvé sa famille. Il l'a préparé. Il était un signe de Dieu, placé par Dieu, du jugement qu'allait venir. Autrefois, oh, quelle chose merveilleuse! Dans les années plus tard, il y a eu un autre signe qui est venu, c'était Moïse. Un prophète. C'était le signe de Dieu pour Israël. 400 ans, ils étaient demeurés dans la captivité, dans la servitude, et Dieu avait préparé un signe pour eux avant la délivrance et l'exode. Et il était le signe de la délivrance pour Israël et un signe de jugement pour l'Égypte. Noé était un signe de délivrance pour son peuple et un signe de condamnation, de jugement pour ceux qui ne croyaient pas. Vous voyez, les mêmes eaux qui autrefois ont détruit le monde, ça a été les mêmes eaux qui ont sauvé Noé et les siens. Vous voyez, c'était comme ça. La chose unique qui aujourd'hui peut sauver l'Église, c'est le jugement. Dieu a donné le jugement. Mais Noé continuait à prêcher. Il est devenu un signe. Et Israël, après 400 ans, ont commencé à crier après la délivrance. Et Dieu ne s'était pas révélé auparavant. Si ce n'est que son peuple était prêt à accepter et recevoir ce qu'il envoyait. Oh, qu'est-ce qui pourrait être dit ici? Comment est-ce que Dieu a laissé cette nation nue. Ils savent toujours mieux les choses. Les journaux l'ont publié. Et partout. Et les choses ont été annoncées qui se sont passées. Et malgré tout, ils continuent à aller de la manière de faire dans leur train de ce monde. Ils ignorent tout ce qu'ils entendent et écoutent. Et ainsi, ils sont sans excuse. Nous sommes à la fin. Dieu envoie son prophète quand son peuple le veut. Dieu envoie des signes quand son peuple est prêt à recevoir ces choses. Mais la chose est la suivante. Les hommes arrivent très rarement dans cet état des choses à être prêts à recevoir ce qui vient de Dieu. Ils veulent toujours de l'enthousiasme ou bien quelque chose. Ils veulent voir un signe, mais quand Dieu leur envoie un signe, ils ne sont pas prêts à le percevoir. C'est caché aux yeux des sages et des intelligents, mais révélé aux enfants, révélé à ceux qui sont humbles et qui deviennent comme des enfants. Les autres ne perçoivent pas le signe de Dieu. Israël aurait dû reconnaître qu'il y a quelqu'un qui est né là alors qu'ils entendaient parler de Moïse. Il savait dans quel temps il vivait, car il avait été dit 400 ans, ta postérité sera étrangère dans un pays. Mais ensuite je les ferai sortir. Il savait que ce temps était proche. Il savait, ici il y a un prophète, un homme né, et toutes ces choses-là étaient ordonnées, et il craignait devant la naissance du roi. Et on avait jeté Moïse au crocodile. Oui, il était un signe. Mais ils ont ignoré cela. Ils n'étaient pas prêts à recevoir cela. Dieu a apporté ce signe. Il est allé dans le palais du Pharaon. Et le Pharaon l'a éduqué. Et lui a donné toute cette instruction qu'un homme peut recevoir. Vous voyez comment est-ce que Dieu fait les choses? Et ensuite, Dieu l'a pris dans le désert pour qu'il puisse oublier tout ce qu'il avait appris. Vous voyez, c'est là, dans le désert. Pharaon l'avait entraîné pendant 40 ans en Égypte. Mais ensuite, Dieu l'a entraîné 40 ans dans le désert pour qu'il puisse tout oublier. Vous voyez? Ici, nous avons l'entraînement des hommes et l'entraînement de Dieu. Pharaon voulait l'éduquer comme un diplomate, comme un conducteur, comme un gouverneur, un homme de la guerre, un combattant. Pour que si un autre pharaon vienne, cet homme puisse le mettre de côté et qu'il puisse pouvoir dominer sur d'autres nations. Mais Dieu l'a pris dans le désert. Et il a fait sortir de lui toute cette instruction. Et en 5 minutes, dans le buisson ardent, il lui a montré qu'il est le Dieu vivant. Il a ôté de lui la peur. Et il l'a préparé pour le service. Il était un signe. Dieu veut que son peuple prie et vive dans la prière. Et si Dieu estime cela juste et les voit dans cet état, d'une manière qui pourra leur donner ce qu'il veut quand le temps sera arrivé. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu veut. Peut-être que le temps était déjà plus loin avancé qu'ils le pensaient. Et ils ont commencé à prier. Et si les hommes commencent à prier, alors Dieu lui commence à exaucer. Nous devons passer du temps dans la prière. C'était le temps où la parole de Dieu devait s'accomplir et s'accomplissait. Et alors qu'ils étaient en Égypte et qu'ils voyaient que le temps était arrivé où la parole de Dieu s'accomplirait. Vous voyez, en général, habituellement, ce sont ceux-là qui prient, qui voient, qui portent les fardeaux, etc., de l'Église. Ce sont ceux-là qui reçoivent quelque chose. qui ne sont pas en train de critiquer, mais qui prient pour les problèmes qu'ils voient, qui demeurent devant le Seigneur. Ce sont ceux-là qui reçoivent quelque chose. Comme ce matin, nous en avons parlé au déjeuner. Nous étions en train de prendre notre toast. Et ensuite, nous avons parlé. Il y a quelque chose qui a été mentionné de quelqu'un qui, après sa guérison, et avait allumé une cigarette, quoi qu'il avait été guéri du cancer. Et quand j'avais entendu cela, j'ai dit, « Oh, quel problème !» Et alors, il y a quelqu'un qui a dit, « La chose terrible dont cette personne devrait se détacher. » J'ai dit, mais je sais, la cigarette, c'est un démon direct qui met en nous l'envie de fumer. Et alors, je lui ai dit, mais non, vous ne pouvez pas arrêter ces choses. Si ce n'est que la puissance de Dieu le crée en vous, alors vous pourrez arrêter de fumer. J'en connaissais deux personnes. Ils voulaient être des hommes de Dieu. Je les ai conduits à Christ. Et l'un fumait 5 jusqu'à 6 paquets par jour. Et quand il a été converti, il voulait malgré tout continuer à fumer. Et il y a quelque chose en lui qui ne le permettait plus. Il ne pouvait plus le faire. Et alors, il a ouvert le four. Il a jeté tous ses paquets de cigarettes dans le feu. Et c'était terminé pour toujours. Il y avait encore un autre qui s'était converti. Et il essayait de son mieux. Il a pleuré devant le Seigneur. Il a invoqué son nom. Il a crié. Et c'était pendant deux, trois semaines, un combat. Il avait presque perdu la compréhension. Et ensuite, il était dehors, derrière le parking. Et il a tapé son crâne sur le sol. Il était dans le désespoir total. Il ne savait plus ce qu'il devait faire. Vous voyez, l'un a été appelé. Et il a été dit, personne ne peut venir à moi si ce n'est que le Père l'attire et tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Qu'est-ce que c'est? À l'un, d'un moment à l'autre, il a jeté sa cigarette. Et l'autre ne pouvait pas arrêter. Qu'est-ce que c'était? Vous voyez? Vous ne pouvez pas le voir si ce n'est que Dieu vous le révèle. Tout est caché aux sages et aux intelligents. Mais à ceux qui viennent comme des enfants, c'est à ceux-là que cela est révélé. Vous voyez? Tous ceux-là là-bas ont reconnu l'heure, que l'heure était arrivée. Le temps était là. Ils l'ont reconnu. Vous voyez, ce n'est pas celui qui veut ou celui qui court. C'est Dieu qui fait grâce et miséricorde. C'est Dieu. Encore aujourd'hui. Oh, que cela puisse s'introduire dans vos âmes. C'est aujourd'hui encore Dieu qui vous a appelé. Et c'est lui qui vous a séparé des choses de ce monde. Et c'est la puissance de Dieu qui vous a sanctifié. Vous devriez être les hommes les plus joyeux qui existent. Des millions auraient été là, mais c'est avec vous que cela s'est passé. Soyez reconnaissants pour cela. Ceci est le jour dans lequel l'Église est appelée à sortir et est séparée, mise à part. Oui, les hommes ont commencé à prier. Israël a commencé à prier et déjà Dieu a envoyé. Dieu avait déjà toujours ses prophètes. Mais Dieu ne va pas avant le peuple. Non. Dieu avait préparé le chemin. Mais il attendait que le peuple puisse commencer à passer du temps dans la prière. Sinon, ça veut dire qu'ils ne le veulent même pas. Oh, comme c'est typique encore pour aujourd'hui. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas des hommes qui apporte un réveil. ou bien alors de grandes organisations.
Bien, disent, laissons-nous nous réunir. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un prophète envoyé de Dieu avec un message qui condamne ce monde. Dieu peut avoir cette personne si les gens sont seulement prêts à cela. Vous savez de quoi je parle? Peut-être que quelque part dans le monde, il a déjà. Mais les gens doivent le vouloir. Dieu ne va pas seulement comme ça vous obliger de recevoir ce qu'il veut vous donner. Vous devez le vouloir. Il est écrit, sauvés sont ceux qui ont soif et faim de la justice, car ils seront rassasiés. Après que le peuple ait reconnu que Moïse avait été envoyé et qu'il était le conducteur, lui, en tant que prophète, il a été envoyé. C'était son signe. Et si cet homme avait dit, je suis un militaire, je suis quelqu'un qui peut faire quelque chose, alors les Israélites n'auraient pas eu besoin de croire. Mais Moïse est venu sous un mandat divin. Vous voyez? Montrez-moi dans la Bible. Où est-ce que Dieu n'a-t-il pas toujours envoyé des prophètes? Avec le « Ainsi dit le Seigneur ». Même David lui-même, ce grand militaire qu'Israël avait, et malgré tout, David était un prophète. Bien sûr qu'il était un prophète. Car il est dit, mon prophète David. David attendait le peuple. Il attendait le peuple. Dieu attendait un peuple pour que le peuple ait dans son cœur le désir de l'entendre en tant que prophète. Bien sûr qu'il y en a certains qui ont dit qu'ils étaient prêts à l'entendre comme prophète. Mais ils n'étaient pas prêts. Ils ont fait que forcer les choses. Et déjà des difficultés se sont manifestées. À chaque fois que la chose surnaturelle se passe, alors le temps est là. Oh, je voudrais vous le dire, à chaque fois que Dieu envoie quelque chose, il y a toujours des gens qui veulent imiter ce que Dieu a envoyé. À chaque fois. Toujours. C'est une foi fabriquée qui est apportée. Et les gens l'acceptent. Mais un vrai prophète de Dieu se tient sur le « Ainsi dit le Seigneur » et il ne va pas se laisser bouger de cet état. Il se tient avec Dieu. Moïse se tenait exactement dans les Écritures. Et Dieu avait dit « Je les ferai sortir d'Égypte ». Et il a dit à Moïse « Je t'envoie à exécuter ce devoir, ce mandat ». Moïse avait l'expérience, il avait rencontré Dieu, il savait ce qu'il faisait. La raison pour laquelle Dieu envoie les prophètes, c'est parce que les prophètes ont la parole du Seigneur. Car la parole du Seigneur vient aux prophètes. Et si un Seigneur n'a pas la parole du Seigneur, ça veut dire qu'il n'est pas un prophète. Il y a beaucoup d'imitations par tous les différents âges. Il y a eu des faux prophètes. Mais à chaque fois, il s'éloigne des Écritures. Mais un vrai prophète nous ramène aux Écritures, car il se tient dans les Écritures, dans la parole du Seigneur. Oh, n'oubliez pas cette citation. Un vrai prophète se tient dans le « Ainsi dit le Seigneur ». Et le « Ainsi dit le Seigneur », ce sont les Écritures. C'est ainsi que le prophète nous avertit, et nous avons été avertis dans les Écritures pour les derniers jours. Et un vrai serviteur, un vrai prophète ne va jamais manquer. Il va se tenir dans le « Ainsi dit le Seigneur ». Il ne va pas manquer de nous envoyer la parole. Moïse se tenait dans les Écritures. Il était, selon les Écritures, il avait été envoyé à Israël. Et il a été dit, dans les jours de votre délivrance, c'est là. Et c'est ainsi que Moïse a envoyé le message. Et il a annoncé à l'Égypte que la fin est venue pour eux. Car toute l'armée de Pharaon a été plus tard engloutie. Vous voyez? Et en tant que prophète, il était un signe de la fin de la nation, de la fin nationale. Pensez à cela. Oh, comme Dieu est grand. et de quelle manière simple il agit. Montrez-moi, est-ce que les sages peuvent le comprendre? Si les esclaves, si ceux qui ont été maltraités en Égypte, s'ils pouvaient comprendre ces choses, que c'était leur heure de délivrance. Est-ce que même les sages du palais de Pharaon auraient pu le comprendre? Ils n'auraient pas pu le comprendre, ce n'était pas déterminé pour eux. Moïse venait du palais et il voyait Israël passer. Pour le Pharaon, c'était des esclaves qui passaient. Mais pour Moïse, c'était les élus de Dieu. Vous voyez, la Bible dit que Moïse avait choisi de porter le peuple du Christ. Et il considérait le peuple du Christ comme un trésor plus grand que tout le loisir et le péché qu'il aurait pu avoir dans l'Égypte. Moïse savait que ils ne sont pas déterminés à piétiner la boue, mais qu'ils sont déterminés à être conduits par Dieu dans l'Exode. Moïse savait qui il était. Moïse savait qui étaient les Israélites. Il savait quel était son devoir. Et il savait que Dieu l'avait déterminé à cela. Et maintenant, il est venu pour leur dire, mais tant qu'ils n'étaient pas prêts à le recevoir, ils n'ont pas pu le recevoir. Ils n'ont pas pu le percevoir. Et ils n'ont pas pu le reconnaître comme un signe. Ils n'ont pas pu l'observer, le percevoir comme un signe. Dieu avait donné un signe à Israël. Il a dit, prends cette verge, il deviendra un serpent. Et si ils ne le reconnaissent pas, fais le deuxième signe. Et ensuite, sa main qui était devenue lépreuse est devenue guérie. Et s'il ne l'écoute pas, alors tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Et ça, c'était un signe national. Vous voyez, s'ils ne croyaient pas à l'un, ils croiront à l'autre. Alors Dieu donne un signe même pour les incroyants, pour les nations. C'est ainsi que Dieu leur a donné à tous un signe, à son peuple et aux nations. Dieu a utilisé un homme humble, un prophète, en tant que signe de la fin pour chaque nation. Pour la fin de chaque nation. Oh, que Dieu nous envoie encore un tel signe. Que Dieu puisse encore élever un tel signe. Pour que le peuple de Dieu puisse commencer à passer du temps dans la prière. Alors Dieu fera ce qu'il a promis. C'est le peuple qui doit avoir ce fardeau. Le peuple doit se réveiller, il doit reconnaître ce qui se passe. Ils doivent savoir dans quel temps nous vivons. Et ce qui est en train, et ce qui doit se passer, et qu'ils doivent se réveiller avant que cela se passe. Sinon, ils vont continuer à aller comme ça. Le sang, l'eau qui est devenue du sang, a été un signe dans la nation. Pas qu'ils disent, oh, ce que celui-ci ou bien celui-là a dit. Non, vous devez reconnaître le signe que Dieu vous envoie à vous en tant qu'église, en tant que peuple. Et vous devez le reconnaître par les Écritures, car, bien mes frères et sœurs, tout passera. Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, les atomes et par les bombes atomiques et tout ça. Craignez celui qui peut mettre à mort, craignez celui qui est en souci de votre âme. J'ai parlé avec un médecin à l'hôpital pendant que ma mère était là-bas et nous avions parlé du corps et de sa constitution. Et d'un moyen qui peut tuer les germes et tout ça. Et j'ai dit, docteur, c'est bien et tout ça. J'estime tout cela. C'est bien. Et je suis reconnaissant à Dieu pour cela. Mais je lui ai dit, regardez, toute ta vie, tu l'as mis pour étudier, pour savoir comment est-ce qu'on peut aider la créature. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris du temps pour aussi reconnaître le créateur de cette créature, celui qui a appelé toutes choses à l'existence et qui nous a créés. Car comment est plus grand le créateur que la créature qu'il a faite? nous sommes mis en souci pour la création et nous n'avons pas reconnu le Créateur. Oh, si nous pouvions nous soucier de celui qui se soucie de notre âme. Bien sûr, c'est une chose merveilleuse si nous pouvions le comprendre. Et ils ont sondé, et ils ont inventé beaucoup de choses pour aider l'homme. Et ils peuvent sortir l'œil d'un homme et le remplacer par un autre. Et l'homme peut de nouveau voir. Tout cela, c'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? Et c'était aussi ainsi quand une mère reçoit un enfant et que l'enfant ne pouvait pas sortir normalement. Alors, les deux mouraient, la mère et l'enfant, bien sûr. Mais aujourd'hui, on n'entend plus parler de cette chose. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des césariennes. Et aujourd'hui, et quand la mère arrive dans cet état, on peut la prendre rapidement. Et si la mère est encore dans de grandes douleurs, pendant qu'elle est encore dans de telles douleurs, ils prennent la mère dans une pièce et ils font sortir l'enfant par une césarienne et tout se passe. Nous estimons tout ce que la médecine a pu atteindre. Montrez-moi un système et vous pouvez stopper et vous arrêter à beaucoup de choses. Vous voyez? Et malgré tout, nous ne reconnaissons pas le Créateur. Mais c'est seulement par un miracle de Dieu que nous pourrons comprendre comment est-ce que la vie peut être conservée et est conservée. Dites-moi, si vous coupez, par exemple, le tuyau principal qui conduit le courant, qu'est-ce qui se passera? Même si vous fermez vous coupez le tuyau principal qui conduit l'eau au réservoir, vous pourrez ouvrir le réservoir comme vous voulez, vous ne recevrez plus d'eau. Mais Dieu, lui, il a créé un chemin. C'est par son sang qu'il a créé un chemin pour revenir dans notre cœur. À chaque fois, vous devez reconnaître que vous étiez condamné à mort et que vous n'aviez rien pour vous sauver. Mais c'est Dieu qui a pris votre place. Vous voyez, même si vous vous coupez la main, si le sang ne sortait pas d'une manière que tout pourrait sortir, sûrement que tout est ordonné et toutes choses ont été ordonnées par Dieu, même dans notre corps, pour notre bien. Si vous vous coupez la main, ce n'est pas tout le sang de votre corps qui va sortir. Et les hommes font tout pour nous aider. Mais qui a créé tout cela ainsi? Nous regardons à la création, au Créateur, et nous disons, oh Seigneur, vous regardez à la création, c'est bien, mais ne manquez pas de regarder au Créateur. Ils regardent à ce qu'il a créé, mais ils oublient celui qu'il a créé. Ils regardent la chose naturelle et oublient le surnaturel. Oui, bon, les prophètes de Dieu avaient la parole de Dieu. Et c'est peut-être raison que le peuple de Dieu croit aux prophètes. Et c'est ainsi qu'il est dit dans Exode. Quand ils croiront, s'ils ne croient pas, et si quelqu'un vient à vous, comment est-ce que nous croirons? Si quelqu'un dit quelque chose que cela arrive, alors écoutez. Mais si cela n'arrive pas, alors oubliez-le. Car c'est un signe. Dieu envoie sa parole, Dieu donne sa parole, pas à un conducteur quelconque ou bien à un dictateur, mais Dieu donne sa parole au prophète. Khrushchev n'était pas un signe pour le monde, non. Hitler n'était pas un signe pour le monde. Mais quelque part, d'une certaine manière, Dieu a eu un prophète humble qui attendait l'heure. Il est un signe. Il est un signe que le monde va être condamné et sauver l'église, le prophète. Élie était un signe dans ses jours le prophète Élie, il était un signe de la parole de Dieu et du jugement. Vous voyez, le jugement sur l'Égypte, la délivrance sur Israël. Dans cette époque, pécheresse d'Élie, alors que tout Israël avait abandonné Dieu et marchait dans leur propre chemin. Ils ont oublié ce que Dieu avait fait en eux. L'appel à sortir. La division de la mer Rouge et tout ce que Dieu avait fait par le grand prophète Moïse. Ils ont oublié tout cela. Nous aussi, nous oublions tout ce qui s'est passé dans les actes des apôtres, dans l'église. Vous, les méthodistes, avez oublié John Wesley. Vous, les luthériens, vous avez oublié Martin Luther. Vous, les baptistes, vous avez oublié John Smith. Beaucoup de nous ont oublié Charles Finney, ce grand de tous, ce plus grand que tous les autres. Vous voyez, un prédicateur de réveil. On disait autrefois que 97% des convertis sous le ministère de Finney ont persévéré. Et après, ça diminuait. Et du temps de Maudit, il y avait beaucoup moins de personnes qui vraiment croyaient. C'était un homme très simple, un homme chauve. Et il était tellement petit qu'il ne pouvait même pas à peine voir au-dessus de la chair. Mais il a prêché jusqu'à ce que le Saint-Esprit s'est saisi de chacun. Vous voyez? Et qu'est-ce que c'est après 2000 années et le grand réveil que Wesley a eu? Le jugement vient. C'était un signe dans cette génération pécheresse. Oh, comme Élie pouvait se tenir là. Il était froid et persévérant. Personne se tenait à côté de lui, pour lui, avec lui, mais il était le signe de Dieu. Tous les autres sont allés avec Akab et le train de ce monde d'autrefois. Ils voulaient être modernes dans cette génération d'autrefois. Ils voulaient faire comme la mode et toutes ces choses. Et tout ce qu'ils avaient était bâti sur leurs gains et leurs intérêts. Bien sûr, aujourd'hui dans le protestantisme, on parle du catholicisme. Mais où sont les protestants aujourd'hui? Tous sont des lâches et se mélangent dans la politique et disent ceci et cela et sont dans le monde. Mais comment est-ce que Élie se tenait là? Oh, avec le ainsi dit le Seigneur. Oh Dieu, accorde-nous de tels hommes. Élie n'avait pas peur de dire en face de Jézabel son état, de lui dire en face. Il n'avait pas peur d'Akab. Il n'avait pas peur qu'on pourrait lui faire des problèmes. Il se tenait là, froid. Et il a dit que la rosée et aucune goutte ne tombera si ce n'est qu'à ma parole. Amen. Il était un signe de cette génération pécheresse. Pour cette génération pécheresse. Est-ce que Israël l'a perçu? Non. Non. Ils se sont moqués de lui aussi. Ils se sont moqués de lui. Il a annoncé à l'avance qu'une chasseresse viendra et que des problèmes viendront et qu'une chasseresse viendra, une famine viendra. Il a prophétisé et il s'est tenu là seul avec le, ainsi dit le Seigneur. Et il a dit, Seigneur, ils ont mis à mort tout ce que tu as envoyé. Que Dieu nous envoie de tels hommes pour qu'une confirmation de la parole de Dieu soit manifestée. Chaque promesse de Dieu, Dieu se tient derrière chaque promesse qu'il a donnée pour l'accomplir. Derrière chaque promesse pour l'accomplir. Mais un signe qui n'est pas perçu. Il pensait, oh, Akab est un grand roi. et tout ce qu'il dit nous suffit. Mais Élie était un signe de la parole de Dieu, un vrai prophète, un signe de la parole. Et un signe, mais il ne le croyait pas, il ne voulait pas. D'Élie, il était un signe de la veuve, alors que Dieu l'avait envoyé de la montagne de Carmel. Et il a dit, va au courant de Kigron. Ensuite, il est allé à la maison de cette veuve. Oh, quel endroit pour un homme, pour un prédicateur, pour aller. Il est allé parce que Dieu l'avait envoyé à aller là-bas. Et Dieu lui a dit, je lui ai ordonné à cette veuve de prendre soin de toi. Vous voyez, il était un signe. Et quand il est arrivé, elle n'avait même pas assez pour elle-même et son fils. Pour encore faire quelque chose. Seulement un peu d'huile qui était restée. Et un peu de farine. Et ils ont cherché du bois pour faire le dernier gâteau. Et faire du feu. Et il est allé. Et ses cheveux chauves brillaient. Son crâne chauve brillait. Il s'est tenu à la tête, à la porte, et il a dit, donne-moi à boire et à manger. Un gâteau. Et elle a dit, je n'ai même pas assez pour moi et pour mon fils. Et ici, pour faire un pain et un gâteau, nous sommes à la fin. Nous allons maintenant manger et mourir. Et il a dit, ne crains pas, car ainsi dit le Seigneur. Ça, c'est l'homme que nous attendons. Oui. Pas peut-être que cela va s'accomplir. Bon, je ne sais pas. Non, il était certain de ce qu'il disait. Il avait la parole du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. La farine et l'huile ne cesseront pas. Amen. Amen, vous l'avez. Il était un signe. Ne manqueront pas. Ne se termineront pas. La femme qu'avait ce fils et qu'avait perdu son fils et qu'avait appelé Élisée, du temps d'Élisée. Et elle avait dit, le temps est arrivé où mes péchés doivent être manifestés. Elle avait placé l'enfant où Élie avait passé la nuit, où Élisée avait passé la nuit, la tsunamite. Et ensuite, Élisée a invoqué le nom de son Dieu. Alléluia. Pensez à cela. L'âme de l'enfant est revenue. L'enfant est revenu à la vie. Et il a pris et il a redonné à sa mère. Ça, c'est Élisée. Et elle savait que quelque chose s'était passé. Et elle savait et elle pouvait dire, je sais, la parole de Dieu est dans ta bouche. C'était un signe pour la femme. Elle voyait la puissance de Dieu qui a restitué la vie à cet enfant et l'a redonné à sa mère. Elle a dit, je sais, tu es un homme de Dieu. Elle le savait. Les nations aujourd'hui vont se moquer de ces choses, se moqueront de ces choses et ne croiront pas comme elle a cru autrefois. Mais c'était un signe pour elle. Et le fils mort est revenu à la vie, a été ramené à la vie. C'est toujours les prophètes qui ont été des signes de Dieu dans leur époque. Et ensuite, du temps d'Élie, c'est ainsi que la décision devait être prise. Et il a dit, si Dieu est Dieu, servez-le. Et si Baal est Baal, servez-le. Est-ce que cela n'est pas quelque chose de merveilleux pour Élie aujourd'hui? Si Dieu est Dieu, servez-le. Qu'est-ce que nous avons à faire avec la politique? Et qu'est-ce que nous avons atteint avec la politique? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu que la corruption. Nous n'avons rien. Nous n'avons plus rien. Nous avons perdu tous nos amis. Et de nouveau, ils continuent à s'éloigner de nous plus loin. Et nous voyons comment est-ce que ils prennent l'impôt de la nation et le donnent aux autres. Et quand ils en ont assez, alors ils se tournent au communisme. Tout cela est rien que de l'hypocrisie. Nous prétendons être chrétiens. Mais nous voulons alors réellement être des chrétiens dans la pratique. Pas que nous ne soyons pas seulement en train de nourrir des autres. Non. Ça, c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Ça, c'est un esprit religieux de prendre soin des autres. Mais ça n'a rien à voir avec le christianisme. Il y en a beaucoup qui ont mélangé la religion avec le salut. Il y a assez de religions. Mais le salut, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle de naître de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'autre. Comme les musulmans, c'est une religion. Et comme il y a beaucoup de religions, des hommes qui sont très bien, un bon cœur. Bon, là-bas, sur la montagne de Carmel, en ce jour, alors que c'était arrivé au point décisif, et qu'ils ont été convoqués, et que Élie a convoqué les prêtres qui appartenaient aux différentes dénominations de l'époque. Il a dit, venez vous tous ici, sur la montagne de Carmel. Venez tous et rencontrez-moi ici tous, tel que vous êtes. Venez. Il avait le ainsi dit le Seigneur. C'est ainsi qu'il a fait. Il n'avait pas peur. Il ne craignait rien. Il a dit, apportez vos sacrifices. Invoquez Baal, votre Dieu. Mais le Dieu qui répondra de feu sera le vrai Dieu. Et du matin jusqu'à vers le soir, tous ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont invoqué, ils ont crié. Ils ont apporté des sacrifices. Il a dit, continuez, peut-être, criez plus fort, peut-être que votre Dieu dort. Peut-être qu'il est allé en voyage. Car Élie avait le ainsi dit le Seigneur. Il était satisfait. Il avait la parole du Seigneur. Oh frères et sœurs, qu'est-ce que nous avons besoin de plus que dans ce temps dans lequel nous vivons d'avoir les promesses de Dieu pour cette heure. Et si Dieu, lui, il a dit qu'il le fera, alors il le fait. Nous n'avons pas besoin de regarder au charismatique. Il y a tout ce qui se passe autour de nous. Abraham a su que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Car Dieu l'avait dit ainsi. Et ensuite, Élie les a convoqués tous. Et ils se sont même blessés avec des couteaux sur leur corps. Ils ont fait toutes sortes de choses pour être exaucés. Vous voyez? Mais qu'est-ce que Élie a fait? Élie d'abord a pris 12 pierres qu'il a placées ensemble, qu'il a édifiées. Dieu n'a pas divisé l'église. C'est les dénominations qui ont divisé l'église. Dieu unit l'église. C'est ainsi que Élie a uni les pierres. Aujourd'hui, quand on pose la question, es-tu chrétien? Oui, je suis baptiste, je suis méthodiste. Je suis cela. Mais je pose encore la question, êtes-vous chrétien? Si vous êtes chrétien, vous devez être comme Christ était. Dieu doit habiter en vous par le Saint-Esprit, tel qu'il s'est répandu le jour de la Pentecôte. Pas plus ou moins d'expérimenter une véritable Pentecôte. Vous devez l'avoir expérimenté pour être chrétien. Je suis pentecôtiste, je suis unitaire, je suis trinitaire. Cela n'est rien d'autre que de dire autre chose. Devant Dieu, cela n'a aucune valeur. Vous voyez? Mais ça, ce sont les prédicateurs qui font croire aux gens qui sont chrétiens. Avec cette division, Dieu est un seul Dieu. C'est les prédicateurs qui ont divisé. Dieu est un seul Dieu et il unit son peuple. C'est Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a uni les pierres. Il a sacrifié sur l'autel. Il a apporté ses sacrifices. Et il voulait être certain que personne pense qu'il est en train de les tromper. Il a dit, apportez-moi 12 seaux d'eau et renversez l'eau là-dessus. Vous voyez, il savait, Dieu est Dieu. Et Dieu a ainsi dit. Il avait le ainsi dit le Seigneur, il était un prophète. Il avait la parole de Dieu. Et il savait qu'il faisait tout selon les Écritures, selon la parole de Dieu. C'est ainsi que les gens disent, on va vous chasser de l'église si vous vous laissez baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est ce que les gens disent. Vous avez peur de quoi? C'est ainsi dit le Seigneur. Il y a quelqu'un qui disait il n'y a pas longtemps, il m'a mis sa main sur mon épaule, il a dit, je veux te poser une question, frère Branham, je veux te dire quelque chose. Oh, si tu pouvais un peu faire de compromis sur les choses et avec les choses que tu dis, baptême, etc. Les frères à Chicago veulent, si tu pouvais aussi aller avec eux et avoir communion avec eux. Oui, oui. Et il a dit, mais c'est la seule chose qu'ils ont contre toi, le baptême d'eau. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. Et je vous défie tous de prouver le contraire. Et il a dit, mais sois d'accord avec eux et va dans la communauté avec eux, etc. Il m'a demandé de le faire. Mais Dieu, lui, ne fait pas de compromis. Non. Dieu ne fait aucun compromis. Il a dit, frère Branham, je veux te poser la question. Si l'ange de l'Éternel, car tous croient que l'ange de l'Éternel a parlé avec toi. Il a demandé, est-ce que l'ange de l'Éternel t'a dit cela? J'ai dit, écoute, il ne s'agit pas de ce que l'ange de l'Éternel dirait. Si c'est l'ange de l'Éternel, il dira de toute manière seulement ce que Dieu a déjà dit. Et s'il dit quelque chose qui n'est pas ce que Dieu a dit dans les Écritures, alors ce n'est pas l'ange de l'Éternel qui me parle. Ça n'a pas d'importance. Que ce soit un ange ou quelqu'un d'autre, comme Paul le dit dans Galates 1, même si un ange vient du haut des cieux et qu'il vous dit autre chose, qu'il soit maudit, ceci est la parole de Dieu. Vous voyez, ange ou bien quelqu'un de quelconque, ou bien quelqu'un dans la chair qui vient oser dire quelque chose d'autre que les Écritures disent, âgé ou pas âgé, ou jeune, qui qu'il soit, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Mais si cela est contre les Écritures, Dieu se tient derrière et sur sa parole, pour sa parole, c'est sa parole, pour toujours. Il ne peut pas changer ses pensées. C'est la parole du Seigneur. Et c'est ainsi que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien reçu en dehors de la parole de Dieu. Et alors, je lui ai dit, si c'était contre les Écritures, moi je ne croirais pas ce qu'il me dit. Car tout le reste est du mensonge, seulement la parole de Dieu est véritable. Vous voyez, Élie, alors qu'il avait renversé l'eau là-bas, et que tout était immergé d'eau, et qu'il était sûr que tous sont convaincus qu'ici, il n'y a rien de pour tromper. Vous voyez, Dieu ne peut pas mentir. Dieu lui avait dit, va. Et alors, il pouvait dire, toi, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob, et d'Israël, que tu puisses aujourd'hui manifester que tu es Dieu, et que je suis ton serviteur. Et que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en accord avec ta parole, selon ta parole, sous ton ordre, sous le institut du Seigneur. C'est toi qui m'as dit de faire ces choses et je l'ai fait selon ta parole. C'est ta propre parole que j'ai exécutée ici. Que ils puissent savoir que tu es Dieu et ainsi le feu est descendu. Et le feu a consumé le sacrifice et l'autel et les pierres et tout a été consumé. Tout a été consumé par le feu parce que tout a été fait en accord avec la parole de Dieu. C'est ainsi que ils sont allés et les 7000 sont sortis. Oh, laissez Dieu être Dieu. Cet homme si faible dans son corps, il est allé seulement une peau d'animaux sur lui. Aujourd'hui, on l'amènerait en prison. S'il sortait comme ça dans la rue, on penserait qu'il a un short. Mais il est allé sur la montagne, vous savez, la montagne de Carmel n'était pas comme ça éloignée dans le désert. C'est une grande montagne, mais pas éloignée de la civilisation. Et c'est ainsi que Géasi est allé, il est tombé devant sa face et a invoqué Dieu, est tombé sur sa face et a invoqué Dieu. Et vous savez, car pendant 3 ans et demi, il n'y avait aucune pluie qui était tombée. Et ensuite, les nuages ont déjà apparu. Et d'abord, il a regardé et il ne voyait rien. Et après, il a regardé et ensuite, il ne voyait rien. Oh Dieu, si ton peuple s'est repenti, se repent de ses péchés, et si ton peuple est revenu, et si ils ont abandonné leurs péchés et leurs idioties, alors tu es le Dieu qui leur répond. Oh, que je puisse dire encore aujourd'hui la même chose. Dieu va briser tes dénominations. Si toutes ces dénominations-là, car ce sont des différences de dénominations qui ont édifié des barrières, moi je vous prouve ici que c'est le même Dieu qui encore aujourd'hui répond par le feu et à tous ceux qui invoquent son nom. C'est nous qui sommes en train de faire des barrières. Mais lui, il est le même Dieu qui puisse que les hommes puissent invoquer et demander un prophète. Dieu fera apparaître ce prophète. Vous voyez, que les nations puissent tomber sur leur face et invoquer Dieu, qu'il puisse envoyer quelqu'un et qu'il puisse voir ce qui se passera. Dieu répondra. Dieu le fait toujours. Et il a dit, « Oh Dieu, que cela soit ainsi aujourd'hui. Ces hommes sont brisés, sont divisés dans toutes sortes de dénominations et de directions. Mais si toi-même, tu veux te manifester que tu es Dieu, vous voyez ?» Et alors ensuite, quand la confirmation est venue, après que les pierres soient unies, c'est ainsi que tant de prêtres de Baal ont été mis à mort. Tout le doute a disparu. Et les barrières qui les avaient séparés ont disparu. Les baptistes ne veulent avoir communion. Et partout, ils veulent avoir communion. Les sincères veulent avoir communion les uns avec les autres. Il y avait 7000 qui étaient là, mais ils ne pouvaient pas le faire. Parce qu'il y avait eu des barrières. Il y avait eu 7000 qui n'avaient pas plié leurs genoux devant Baal. Mais ils ne pouvaient pas avoir communion ensemble parce qu'il y avait eu des barrières. Oh, s'ils pouvaient mettre de côté leurs orgueils et leur façon de voir tout le cachetisme et toutes les interprétations et toutes les opinions et toutes ces choses et revenir aux Écritures et à la parole de Dieu, alors Dieu va leur envoyer un prophète. Ça n'a pas d'importance. Il le fera et c'est ainsi qu'il les apportera s'ils sont prêts à l'accepter. Mais d'abord, ils doivent prier. Est-ce que ce n'est pas étrange? Dieu veut le faire parmi le peuple, mais le peuple doit prier. Quand il a dit la moisson est mûre, mais il n'y a pas de travailleurs, il y a peu de travailleurs. Priez, priez aux mains de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Il veut le faire, mais il dit il faut prier. Ça, c'est votre part. Vous devez le faire. Dieu, lui, il attend l'église pour qu'elle puisse invoquer Dieu. Ça, il a toujours fait. Dieu veille et attend aujourd'hui son peuple. Car c'est ainsi qu'il établira les ministères, il restaurera, il accordera les dons et les fruits de l'esprit et les cinq ministères jusqu'à que le peuple d'abord doit prier pour que Dieu restaure toutes choses. C'est ainsi que Dieu n'envoyait pas le prophète avec des signes et des miracles tant que son peuple ne se mettait pas à genoux pour prier et cherchait pas la face de Dieu et invoquer. C'est ainsi que Dieu envoyait la délivrance. Dieu avait préparé le prophète, mais il attendait. Pendant 40 ans, le prophète a attendu jusqu'à ce que le peuple était prêt à le recevoir. Et ensuite, Dieu a envoyé le délivreur, le libérateur. Dieu fera la même chose encore aujourd'hui. Si les hommes se prosternent et prient, bien sûr, c'était un signe pour les faux prophètes et pour Achab qu'il était le serviteur de Dieu, Élie, l'homme de Dieu, le prophète. C'était un signe. Il était aussi un signe pour Israël. Ils pouvaient fermer le ciel et ouvrir le ciel. Bien sûr, c'était étranger pour eux. Dites-moi quelqu'un qui peut fermer le ciel et ouvrir le ciel, si ce n'est Dieu lui-même. Et la parole de Dieu est avec le prophète. Michée, un signe du temps de Josaphat. Michée était un signe pour Josaphat. Que Dieu conserve son véritable prophète. Reconnaissez. Là-bas, Achab avait 400 prophètes. Il les avait. Et il a appelé ces 400 prophètes. Et d'une seule bouche, ils ont dit au roi qu'il doit aller en guerre. Qu'il peut aller en guerre. Mais dans Josaphat avait un cœur qui craignait Dieu. Et il savait qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible ici, qui ne peut pas être vrai. Et la question a été, est-ce qu'il n'y a pas encore un prophète? Après que 400 prophètes aient parlé, et tout était des prophètes d'Israël. Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, tout, trinitaires et unitaires, tous les avons ici aujourd'hui. Et tous, dans un commun accord, ils ont dit la même chose. Et pourquoi est-ce que nous devons avoir peur? Nous sommes une nation religieuse, Dieu est avec nous, etc. Mais la question était, est-ce qu'il n'y aurait pas encore un prophète? Akaba dit, je le hais. Car à chaque fois que je l'envoie, je l'appelle, il parle contre moi. Car il n'annonce jamais quelque chose de bien. Il m'annonce toujours le jugement et quelque chose de mal. Et Josaphat a dit, oui, lui, je veux l'écouter. C'était un signe. Ça n'avait pas d'importance. Combien de dénominations avaient déjà parlé? Dieu avait toujours encore un prophète. Et le prophète, lui, restait avec la parole de Dieu, pas avec les opinions d'une dénomination. C'est comme ça que Josaphat savait que Akab était déjà jugé. Car le vrai prophète avait dit que les chiens vont laper ton sang. Josaphat savait ce que Jézabel avait fait et quel jugement avait été prononcé sur elle. Et Miché, alors qu'il est venu à lui, tout de suite ils ont dit, écoute, si tu veux être accepté dans l'organisation, tu sais, les prédicateurs ont toujours raison. Et il y en a beaucoup ici. Sois d'accord avec eux, dis ce qu'ils ont dit, et alors toi aussi, tu seras accepté dans l'organisation. Et fais un peu de compromis comme ça, sur ces choses. Tu sais de quoi je parle. Sois d'accord avec les autres prédicateurs. Va avec eux. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, vous, un vrai prophète, se séparer de la parole de Dieu? Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Oh, les autres auront pu dire, nous avons tous des missions, etc. L'un s'est fait même des cornes. Il a dit, vous savez, nous sommes des prophètes. Et Michée a dit, je ne doute pas de ce que vous avez vu, bien sûr, vous avez même peut-être eu une vision, mais elle n'est pas en accord avec les Écritures, votre vision. Et il a dit, moi j'ai eu une vision. Vous voyez, c'était un signe. Il a dit, j'ai reçu une révélation. J'ai vu Israël éparpillé sur la montagne comme un troupeau de brebis sans berger. Et cet évêque là-bas, il a frappé Michée sur le visage. Et il a dit, depuis quand est-ce que l'Esprit m'a quitté pour parler et pour être avec toi? Il a dit, toi, ça tu le sauras quand tu devras fuir de maison en maison. Et on a mis Michée en prison. Et ils ont dit, donnez-lui seulement de l'eau et du pain. Et quand je reviendrai, je m'occuperai de lui. Et Michée s'est tenu là avec le ainsi dit le Seigneur. Et il a dit, si tu reviens, ça veut dire que Dieu n'a pas parlé par moi. Oh, ça c'est ça. Qu'est-ce que c'était? Il était un signe que le prophète de Jéhovah reste avec la parole de Jéhovah. Et si quelqu'un pense qu'il a entendu un prophète, un homme qui lui dirait qu'il doit se laisser baptiser dans les titres Père, Fils et Esprit, ça c'est un faux prophète. Si quelqu'un dit, un prophète est parmi vous, qui enseigne qu'il y a trois dieux, ça c'est un faux prophète. Là, il n'y a aucune écriture pour ça. C'est vrai. Un vrai prophète de Dieu va se tenir avec les Écritures, va rester avec les Écritures. Et si sa vision est contre les Écritures, alors il n'est pas un vrai prophète. Nulle part dans la Bible, quelqu'un aurait été baptisé dans les trois titres Père, Fils et Saint-Esprit. Regardez Paul. Lui, en prison, assis là-bas, et il a passé presque 20 ans en prison. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que les femmes prédicateurs ont pensé de lui? Alors qu'il avait écrit que les femmes doivent se taire dans l'église et qu'il ne lui aurait pas permis de parler. Et les évêques, et tous ces gens vus. Qu'est-ce qu'ils ont dit et pensé de cela? Ils ont pensé, mais quel est cet homme là-bas, en prison? Mais il avait rencontré Jésus. Et il savait de quoi il parlait. Vous voyez? Et le même groupe, plus tard, ensuite, on l'a, c'est ainsi que doucement, doucement, l'église catholique s'est formée. On a toujours plus écouté les gens vus, etc. Et c'est comme ça que l'église catholique s'est formée. Et toujours plus, ils ont mis la Bible de côté. Je vous défie de contredire ce que la Bible dit sur le baptême d'eau. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur dans sa parole. Le baptême dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit est faux. Ainsi dit le Seigneur. Je vous ordonne à tous ici, ou bien vous qui écouterez cette cassette, si vous n'êtes pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, laissez-vous de nouveau rebaptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul, dans Actes apôtres 19, verset 5, il a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit après que vous soyez devenu croyant, depuis que vous êtes devenu croyant? Il a dit, mais nous ne savons même pas est-ce que le Saint-Esprit est là. Il a demandé, mais comment est-ce que vous avez été baptisé? Ils ont dit, nous avons été baptisés. Vous savez, Père, Fils et Saint-Esprit, les trois titres dans le baptême ne sont pas un baptême biblique. Aucun chrétien n'a été baptisé ainsi. Non plus dans les premiers siècles après. C'est une doctrine catholique. Et ce n'est pas un enseignement de l'Église chrétienne. Montrez-moi dans la Bible. C'est une falsification. C'est une doctrine de démons. Et je ne dis pas que ceux qui ont été baptisés comme ça sont des démons. Mais je dis que c'est l'enseignement qui vient des démons. Ils ne savent rien d'autre, ils ne savent pas mieux les choses. L'heure est arrivée. Nous devons revenir à la parole de Dieu en toutes choses. Et dire les choses telles qu'elles sont écrites. Et je l'ai dit à ma mère alors qu'elle était en train de mourir. Je lui ai dit, mère, alors avant de devenir croyant, j'ai commencé à chercher déjà dans ma jeunesse. Je savais que Dieu est présent, Dieu est là. Car depuis mon enfance, je voyais des visions. Et ensuite, j'ai considéré l'Église catholique et toutes les autres églises. Et tous disent, nous sommes l'Église, etc. Les uns font comme ça, les autres font comme ça. Les luthériens disent, nous croyons ainsi. Et tous vont dans leur propre chemin. Et des centaines de différentes directions. Comment est-ce que vous pouvez avoir de la foi ancrée dans ces choses? Laquelle de toutes ces directions sont justes? Il y a une seule qui est juste. À l'époque, je ne savais pas beaucoup, mais j'ai dit à ma mère autrefois, je suis revenu à la Bible. Et j'ai lu la Bible. Et je suis reparti à ce que les apôtres ont enseigné, à ce qu'ils ont pratiqué, à ce qu'ils ont fait. Et j'ai fait exactement tel que la Bible l'a dit. Et j'ai expérimenté les mêmes résultats. Et j'ai vu et j'ai expérimenté les mêmes résultats que les apôtres ont expérimenté. Amen. Excusez-moi l'expression. Mais vous savez, celui qui aime le poutine, il doit le manger. On doit avoir le résultat, bien sûr. Vous ne pouvez pas mettre votre confiance dans différentes directions, dans des centaines de différentes opinions. Non, il faut constater ces choses dans la Bible. Et je le constate, Jésus dit lui-même, celui qui ajoute ou bien retranche quelque chose de la parole, n'importe qui, sa part est ôtée du livre de la vie, ôtée ou bien retranchée. Même si son nom était là-bas, cela sera retranché. Oh, nous devons revenir à cette parole. Le ciel et la terre passeront. Mais ma parole demeure éternellement. Amen. Nous devons considérer chaque parole comme mensonge et seulement la parole de Dieu en tant que vérité. Nous voulons demeurer seulement avec la parole de Dieu originale. Et ça, ce sont les Écritures. Oui, Josué savait que Dieu conservait un prophète véritable qui demeure avec la parole de Dieu. 400 étaient contre lui avec la prophétie. Mais ici est telle la parole du Seigneur avec un seul homme qui
par lequel les mêmes choses sont accomplies. Je le dis, si un prophète apparaît, quand un prophète apparaît, il apportera toujours la parole originale de Dieu sans considérer ce que des centaines d'opinions ou bien d'églises disent. Michel n'avait pas de compatriotes. Moïse n'avait pas de compatriotes. Noé n'avait pas de compatriotes. Aucun de ces hommes-là avait quelqu'un pour les soutenir. Tout c'était contre eux, mais ils se tenaient là seuls avec Dieu. Dans les mauvais jours, avant que Dieu envoie le jugement, il envoie toujours avant quelqu'un qui offre la grâce au peuple de Dieu. Gloire à Dieu pour cela, qui propose la grâce avant le jugement. Je voulais pour finir dire cela encore quelques minutes. Écoutez exactement ici. C'était un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Un prophète, un signe prophétique avant que Jésus vienne pour être manifesté. Il a envoyé un prophète avant sa venue. Et l'a-t-il fait? Oui. Il a envoyé un prophète. Et nous l'avons déjà entendu d'Élie, de l'Ancien Testament. Et ici, Jean vint dans la puissance de l'esprit d'Élie. Et il a annoncé Jésus, le Messie. Jean a apparu. Il est sorti du désert. Il était un signe que le Messie est en train de venir. Et sur le chemin, Israël aurait dû savoir et reconnaître à cause de ce que leurs prophètes disaient. Mais s'ils ne pouvaient pas croire ce que les prophètes ont dit, ils ne croyaient pas ce que Pierre le juge de la Pentecôte disait, par exemple. Ils ne croyaient pas ce que Paul disait. Et comme il disait, si quelqu'un d'autre vous prêche quelque chose d'autre, il est maudit. Ils ne croyaient pas ces choses. Et ils ne croient pas les promesses non plus. Sinon, ils auraient su. Jean a dit, une voix retentira dans le désert. Préparez au Seigneur, à l'Éternel, le chemin. Vous savez, ils auraient dû savoir. Jean était un prophète. Le plus grand parmi les prophètes. Et malgré tout, ils ne croyaient pas. Non, ils disaient, ah, le Messie vient. Mais qui était cet homme? Il était un homme envoyé de Dieu. Oh frère, il avait d'abord, pas facile, mais Dieu lui a accordé un petit troupeau. Il n'avait personne ensuite, comme il a fait à Élie. Dieu a toujours eu des hommes pour écouter ses serviteurs. Il n'a pas besoin de dénomination. Il n'avait pas besoin de ça. Jean-Baptiste n'avait pas besoin de dénomination. Il prêchait la parole. Il se tenait sur la parole de Dieu. Et Dieu lui a donné un petit troupeau qui allait à lui dans le désert et qu'il a pu conduire. Ça n'a pas d'importance ce que les gens disent. Dieu vous accordera un petit troupeau à qui vous pourrez apporter la parole. Jean n'avait pas de coopération et des gens qui le suivaient. Il avait peur de rien et il ne craignait rien. Amen. Ça, c'était Jean. Pourquoi? Il était un homme envoyé de Dieu. Il se tenait. Il était comme Élie. Et il a prouvé devant les hommes que le Messie vient. Et il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Comme le prophète Esaïe a dit, préparez-vous à rencontrer le Seigneur. Et les pharisiens et les sadduciens ont argumenté ici et là. Là-bas, pendant qu'ils étaient en train d'argumenter, Dieu a fait son œuvre et le Messie a été manifesté. Et Jean disait, voici l'agneau de Dieu. Vous voyez, voici. Il a fait ce qu'il y avait été ordonné. Il est parmi vous. Oh, le ciel s'est ébranlé. Et Jean est allé dans l'eau. Et Jésus est allé. Et il voulait le baptiser. Et la voix a retenti après que l'esprit se soit infusé. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve mon bon plaisir. Oh, quel prophète! Un signe pour Israël. Il était un homme envoyé de Dieu. C'est pour cette raison, quoique son père était un sacrificateur, bien sûr, son père, Zacharie, était un sacrificateur. Mais avez-vous constaté que Dieu n'a pas permis que le prophète soit mélangé avec l'organisation, son père aurait bien voulu l'apporter dans un séminaire, et étudier la théologie, etc. Bien sûr, dans les dénominations, etc. Être un homme bien, etc. Et lui donner comme ça sa place. Mais Dieu n'a pas permis que son âme soit pervertie et perdue par ces choses. Avez-vous compris ces choses? Il ne pouvait pas permettre que cet homme soit mélangé avec les organisations et se perde. Pas avec les sadduciens, pharisiens et tout d'autres organisations. Non, Dieu ne l'a pas permis. Il était un garçon étrange pour tous, mais il était un prophète. Son père était sacrificateur. Et tous ces sacrificateurs, etc., de l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a pris dans le désert et l'a préparé là-bas dans le désert. Ça, c'est l'entraînement le plus meilleur. Le meilleur. Dieu, par une expérience personnelle, l'a entraîné. C'est la bonne chose. C'est ce qui est meilleur. De connaître Dieu personnellement, de savoir de quoi on parle. Et quand le temps est arrivé, il a su exactement quel était son ordre à exécuter. Dieu a confirmé son ministère. En quoi? Là-bas, le jour du Jourdain. Dans le Jourdain, c'est là que Jean a été baptisé, a été confirmé. Oh, si vous pouviez compter 2 plus 2, là-bas, dans le fleuve. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que la confirmation vint, il pouvait dire, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez au chemin, au Seigneur, un chemin. Jean envoyé de Dieu, un homme. Dieu n'a pas permis qu'il soit mélangé avec tous ces autres, non plus entraînés dans des écoles de séminaires, et bien dans la théologie entraînés, pas comme ça, infiltrés de vaccins, de différentes doctrines et d'opinions de baptistes, de pentecôtistes et de presbytériens et d'assemblées de Dieu. Non, pas tous ces opinions théologiques, non. Non. Cela avait été annoncé à l'avance. Isaïe l'avait annoncé qu'il va apparaître dans les Écritures. Il est parlé de la venue de Jean. Cela a été annoncé à l'avance. Isaïe 40, verset 3. Malachie 3 aussi le dit. J'enverrai mon messager devant moi. Vous voyez? Le dernier livre dans l'Ancien Testament a parlé de ça, que Élie viendra à Israël avant le grand jour. Le dernier livre de la Bible et dans l'Apocalypse, il nous a montré qu'il y aura un retour de la même chose parmi les païens avant le retour du Seigneur. De lui, il a été prophétisé qu'il viendra avant le retour du Seigneur. Malachie 4, verset 5 et Apocalypse chapitre 3 parle aussi du dernier ange, du messager, à partir du verset 14, qui se tiendra pour le peuple dans la brèche, pour le petit troupeau. Dieu l'a dit ainsi. Et c'est ainsi qu'il sera un signe. Il s'adressera aux païens. Un signe que le temps ne sera bientôt plus. Et quand il apparaîtra, ça veut dire que le temps du retour du Seigneur est très proche. Oui, Dieu l'enverra. Le temps est proche. Dès que son ministère sera achevé, que Dieu lui a ordonné d'effectuer. Et c'est ainsi que le Messie se manifestera. Cela sera ainsi. Le temps est proche, c'est pour cette raison que nous voulons prier, demeurer dans la prière, bien-aimés frères et sœurs. Ce sont des signes donnés de Dieu. Et le signe de Dieu pour ce temps seront reconnus par ceux que Dieu a élus. Vous voyez, je ne veux pas dire qu'on soit seulement comme ça, mouvementé ici et là, parler en langue et tout là. Tout cela ne suffit pas. Tout cela seulement ne suffit pas. Cela a été prophétisé dans Malachie 4, verset 5 et dans Apocalypse 3. Il viendra rien ne le retiendra. Il sera là. Il sera ici. Amen. Oh, que les hommes puissent tomber sur leur face et invoquer Dieu et voir ce qui se passe. Et demeurer dans la prière. Je vous dis qu'il manifestera la même puissance qu'a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, selon les Écritures. Le message du signe sera manifesté. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que nous savons que c'est la chose juste et vraie? Dieu et Israël l'avaient expérimenté là-bas dans Deutéronome. Dans Deutéronome 18, au verset 20, n'est-ce pas? Ils ont demandé, comment serons-nous? Dieu doit laisser savoir son peuple. Il est écrit, il ramènera le cœur des enfants au Père, au message qui existait au commencement. Il ramènera leur cœur là, dans les mêmes expériences. Un signe qui a été non, qui est resté non perçu. Le signe, il ne le perçoit pas. Nous devons revenir au vrai message. Il sera seul et il parlera contre les dénominations, mais sans peur, avec le ainsi dit le Seigneur. Il fera de compromis avec personne. Et il va jamais s'ajuster à quelqu'un. Il va rester seul avec la parole de Dieu, avec le ainsi dit le Seigneur. Et Dieu va confirmer son ministère par des signes, des prodiges, des miracles. Et de grandes choses vont être manifestées. Oh, ce jour est proche. Il se tiendra là comme Pierre et Jean après la Pentecôte. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et ils ont été baptisés d'esprit et de feu, ils se sont tenus là et ils devaient rendre compte. Mais ils étaient prêts à le faire. Et ils enseignaient au nom de Jésus. Et on disait, ils ont dit, jugez vous-même, qui est-ce que nous devons obéir? Vous ou bien Dieu? Vous voyez, amen. C'est de ça qu'il s'agit. Ils étaient des prophètes. Ils étaient des prophètes. Loin de Dieu. Par Dieu. Ils étaient des signes du Saint-Esprit, des prophètes. Ils savaient comme Jean. Et ils ont expérimenté leur Pentecôte. Authentique. Ils n'étaient pas comme la plupart de nos prédicateurs aujourd'hui. Ils se sont établis eux-mêmes, choisis eux-mêmes. Et ils choisissent à quelle organisation ils veulent appartenir. Et combien de membres ils veulent avoir dans leur grande organisation. Qu'est-ce qu'ils font de grand et tout ça. Avec de se montrer, de se faire voir. Nous avons beaucoup de membres comme les autres aussi. Tout cela, vous voyez, est-ce que vous ne voyez pas que tout cela est devenu de la politique dans les assemblées? Tout cela, c'est un train de politiciens. Et si vous avez compris ce que je dis de quelques minutes, vous savez de quoi je parle. C'est un signe. Ce message est un signe. Prophétisez, je l'ai laissé là-bas. Cela vous est remis entre vos mains. Vous voyez? Pas seulement vous ici qui l'écoutez ce message, mais vous qui m'écouteront. Faites ce que vous voulez avec ce message. Je vous dis, demeurez dans la prière, cherchez la face de Dieu et vous allez voir comment Dieu va agir. Comment est-ce qu'il va confirmer sa parole dans votre vie? Attendez, tout sera retenu. Les hommes craignent partout, au Pentagone, etc. Tous, ils envoient des avions partout. Ils ont peur ici dans la nation. Et nous pouvons dire comme Élie, quelque part il doit être. Et il doit apparaître. Ce petit troupeau, le reste, il va reconnaître le temps dans lequel il vit. Et Dieu fera quelque chose. Soyez attentifs. Ce sera un countdown, un compte à rebours national. Et des ceux qui n'ont jamais vu vont apparaître. Mais cette fois-ci, ce sera trop tard. Les portes vont être fermées. C'est ainsi, pensez à cela. Nous sommes à la fin de la fin des temps. Priez, je vous dis, demeurez dans la présence de Dieu. Vivez dans la prière et reconnaissez le ministère de l'heure. Je voudrais encore pour finir dire, qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons rien du tout. Seulement des grands conducteurs, des grands évangélistes. Ce grand évangéliste disait, si je pouvais retrouver 10% de ceux qui se sont convertis, qui restent vraiment un an dans la foi, je serais heureux. Seulement 10% de ceux qui se sont convertis. Je serais vraiment heureux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Finé, il avait 97% de ceux qui se sont convertis par son ministère. Et Paul avait 100% de ceux qui se sont convertis par son ministère. Et vous voyez, Il y a un qui a été sauvé, qui a été rempli du Saint-Esprit. Et il a parlé à un autre. Et d'autres ont été baptisés, ont été sauvés. Et par lui encore d'autres. Et c'est ainsi que ça allait dans des millions. Qu'est-ce que c'est? Ils avaient quelque chose. Ils étaient sur la, fondés sur la parole de Dieu, de l'heure. Aujourd'hui, nous plaçons nos fondements sur. C'est devenu de la politique. Nous invitons un grand évangéliste dans la ville. Et on invite tout le monde, baptiste, méthodiste, et ils forment un comité. Et ensuite, ils réunissent tous. Et qu'est-ce qu'ils ont? Quand il vient, bon, aussi je parle des pentecôtistes. Les femmes vont là-bas, ils vont à l'hôtel. Et vous savez, j'étais pas toujours pour appeler à l'hôtel. Peut-être que je devrais le dire ici. Je crois que cela n'existe pas dans la Bible. Comment est-ce que quelqu'un peut venir si ce n'est que Dieu l'appelle? Et si Dieu l'a appelé, alors vous n'avez même pas, vous pouvez pas le retenir à venir. Si Dieu l'appelle, vous voyez. Mais aujourd'hui, on appelle, on oblige presque. Tu sais, ta mère est morte il n'y a pas longtemps et elle est chez le Seigneur. Mais et toi, on fait peur aux gens. Non, ça c'est pas une conversion. Il y a une femme qui a été portée sur une civière, sur la plateforme. Et elle devait être servir à ce que beaucoup d'autres viennent devant. Ce grand évangéliste. Quel théâtre il a joué devant la chair. J'ai honte à cause de ces gens de m'appeler même, de me faire appeler évangéliste, car je vois tout ce que ces gens-là font. Comment est-ce qu'ils se comportent avec le peuple de Dieu? Et cette femme est venue avec les cheveux coupés, maquillée et tout. Et elle parlait en langue, etc. Mais elle n'a jamais poussé ses cheveux, bien sûr. Aucun respect pour la parole de Dieu. Montrez-moi, est-ce que cela c'est une conversion? Ça c'est une moquerie sur la conversion, mais ce n'est pas une conversion. Vous voyez? Car c'est une ignominie, c'est une honte. Comment est-ce qu'une femme peut, dans cet état, rendre témoignage à quelqu'un d'autre pour qu'il croit? Oh, l'heure a venu où je vous dis que l'âge est placé au tronc des arbres et les arbres qui puissent tomber là où ils veulent. Qu'est-ce qui se passe? Tout est moderne aujourd'hui dans l'église. Des prédicateurs bien, de grandes réunions et des campagnes d'évangélisation. Et ils ne connaissent pas plus de Dieu qu'un Égyptien dans une nuit en Égypte. Qu'est-ce que c'est? Où étaient ces gens autrefois? Ils disent, oui, Jésus nous ordonne, nous devons venir et faire ceci et faire cela. Et frère, comment est-ce que les choses continuent alors? Autrefois, le jour de la Pentecôte, ils sont venus se réunir, ils ont attendu, ils n'ont pas attendu un seul jour, ou bien 9 jours. Non, ils ont attendu jusqu'à ce que cela se passe. Vous voyez? Je vous dis quelque chose. C'est une ignominie, c'est une honte. Et j'ai jamais cru que on doit remuer quelqu'un pour qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit. Ou bien seulement dans des pleurs, ou bien dans la louange, ou bien dans des sensations qui apparaissent. Je crois pas à toutes ces choses. Je crois que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient établir sa demeure dans ton cœur. Et tout le reste vient après de soi-même. Vous avez besoin de Dieu lui-même. Vous rencontrez Dieu de manière surnaturelle, comme le jour de la Pentecôte. Baptiste, méthodiste, aujourd'hui, parce que j'ai pleuré, alors j'ai le Saint-Esprit. Parce que j'ai ressenti cela, j'ai le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, c'est Dieu en vous. Lui-même, Dieu en vous. Vous devez faire la différence. Est-ce que c'est une émotion, ou bien est-ce que c'est l'Esprit de Dieu en vous? Si vous pleurez, ou bien que quelqu'un d'autre pleure, ou bien vous faites quelque chose parce que quelqu'un aussi le fait, ce n'est pas juste, non. C'est une imitation. Oh, que Dieu puisse saisir chacun de nous. Et que des lèvres bubulantes, balbutiantes puissent vraiment se manifester, que cela puisse jaillir comme un fleuve, comme une source. Oh, nous sommes dans des détresses. Nous avons besoin d'un réveil, besoin du véritable salut authentique. Et les pentecôtistes sont en train de travailler leurs membres. Maintenant, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, vous avez le Saint-Esprit et ils ne l'ont pas. Écoutez, le jour de la Pentecôte, c'était différent. Ils ne se sont pas abandonnés à rien d'autre.
à ce que les autres disaient. Ils étaient réunis d'un même accord, unis d'un seul cœur, cela parmi eux. Et Dieu lui-même est venu parmi eux et chacun l'a reçu. Ils ont reçu des langues de feu et le Saint-Esprit a rempli tout ce qui était présent. Dieu lui-même était présent. Ils le savaient. C'était pas de remuer l'âme et une émotion. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et ensuite, ils ont commencé à parler. Selon que l'Esprit leur donnait cette remise. Nous devons laisser Dieu le faire. C'est ainsi. Les gens sont comme ça, travaillés. Il y a des émotions de l'atmosphère qui est créée. Et ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est avec des lèvres bubillantes. Et ça vient du cœur. Et ça jaillit à l'extérieur. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, des gens viennent orgueilleux, parlant langue. Et jouent du théâtre. Qu'est-ce que c'est? Et j'ai entendu un jour d'un prêtre, il y a une femme qui m'avait écrit et qui a dit, j'appartiens à cette organisation, à cette organisation, une grande organisation trinitaire. Et elle m'a dit, je voudrais te laisser savoir que nous avons reçu cet esprit. Et j'avais toujours aussi des longs cheveux et j'ai estimé cela. Mais notre église enseigne que tout cela s'est démodé. Et que je peux couper mes cheveux. J'avais toujours mes cheveux nattés. Et il se moquait de moi. Et ensuite, son mari lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu ne te coupes pas les cheveux une fois pour toutes? Et que tu sois aussi donc comme les autres. Et alors, elle m'a demandé dans la lettre, est-ce que c'est vrai que le véritable baptême d'eau doit être au nom du Seigneur Jésus-Christ? Je savais où elle voulait en venir. Et elle a écrit, Frère Branham, dis-moi la vérité, j'ai faim et j'ai soif de la vérité. Et j'ai pensé, oh, c'est une honte, vous, rétrograde. Une honte, sortez du milieu d'eux. Vous tous qui ne voulez plus marcher véritable sur le véritable chemin de Dieu. Dieu ne peut pas changer sa pensée sur sa parole. Si Dieu dit quelque chose, alors il le pense ainsi. Ça n'a pas d'importance combien de prédicateurs rétrogrades sont qui font des compromis pour avoir de grandes organisations. Nous avons besoin du salut de Dieu et pas de compromis. Des lèvres balbutiantes et l'action de Dieu lui-même en vous. Sinon, je ne sais pas si je peux faire confiance à vos expériences. Répentez-vous, sinon vous allez mourir dans vos péchés. Oh! Vous ne pouvez pas entrer dans cet état. Dans l'église, non plus vous, dans une église pentecôtiste, quoi, vous pentecôtiste. Mais il n'accepte pas la correction, il demeure dans une manière de voir et il continue comme ça. Oh grâce! Qu'est-ce que c'est? C'est moderne comme Jézabel. Il y avait une seule femme dans la Bible qui s'est maquillée. Et Dieu l'a donné comme nourriture aux chiens. Et c'est ainsi que c'est elle qui a séduit Akab. Un homme lâche qui se laisse séduire. Et qui laisse sa femme s'habiller comme ça. Et qui laisse habiller sa femme avec des vêtements serrés qui collent à la peau. Je ne raconte pas cela pour faire des blagues et des histoires. Je le dis en tant que parole de Dieu. Vous devez vous habiller de manière décente. Vous allez dans la rue avec vos habits qui ne sont pas bibliques, qui sont serrés, moulus. Et si un homme fait une remarque sur vous, vous vous mettez même en colère. mais vous-même revenez au sens normal. Ça montre ce qui est en vous. Si vous acceptez même pas la correction et vous permettez pas qu'on vous dise quoi que ce soit. Ce dont nous avons besoin, c'est de l'évangile. De ce que nous comprenions notre état et que nous crions à Dieu pour qu'il puisse intervenir. Tant que nous sommes satisfaits, il ne fera rien. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Vous voyez, Paul écrit qu'il n'est même pas permis à la femme de venir et de prier devant Dieu sans voile. Et la Bible dit que son voile, c'est ses cheveux. Et que c'est une honte, une abomination pour une femme. Ou bien des femmes qui portent des shorts. Ou bien des choses courtes. Je veux blesser personne. Mais je veux vous savoir rempli du feu du Saint-Esprit. Répentez-vous. Tu dis sur le Saint-Esprit. Donc conduis-toi de cette manière. Marche selon l'Esprit. Si Dieu habite en toi, alors c'est le Dieu qui a laissé écrire la Bible qui est en toi. Comment tu peux dire que Dieu est en toi et ta conduite, ta marche renie les Écritures? Vous dites, j'ai parlé en langue, ça ne veut rien dire. J'ai vu en Afrique des sorciers qui ont du sang dans un crâne, qui boivent et en autre langue, eux adorent le diable. J'ai vu ce que des sorciers font, qui ont parlé dans des langues étrangères. J'ai vu toutes ces choses. Ne parlez pas de toutes ces choses. J'ai vu toutes ces choses, c'est de la sorcellerie. Mais je crois malgré tout que Dieu parle dans une langue inconnue. Et qu'il peut la révéler. Mais ne vous abandonnez pas à vos sensations. Paul dit, même si je parlais en langue, je connaissais les langues des anges et que je n'ai pas l'amour, je suis rien, une cymbale qui retentit. Et quelqu'un qui dit, oh ça c'est un grand homme de Dieu. Oh regardez les grands signes et miracles. Même les démons peuvent sortir et faire des miracles.
Je connais des sorciers qui sortent. Et des femmes aussi. Qui s'habillent aussi de manière courte, etc. Et qui vont et qui maudit, etc. Ce n'est pas l'homme ou bien la femme. Non. C'est parce que les hommes croient que Dieu, par la personne, d'une certaine manière, peut se laisser atteindre. Vous voyez? Ce n'est même pas un signe. C'est seulement un signe que nous sommes à la fin. Est-ce que Jésus n'a pas dit dans Matthieu 24 que des faux prophètes apparaîtront, qui feront de grands signes et des miracles, d'une manière que même si c'était possible, les élus même seraient séduits si c'était possible. Mais les élus se tiennent dans la parole. Ils savent ce que est le vrai signe. Comment est-ce qu'un homme peut régner Dieu d'une telle manière et penser être un prophète du Seigneur? Peut-être qu'il est un prophète, comme les 400 du temps d'Akab. Peut-être que c'est un tel prophète, mais pas un autre, un prophète de Dieu. Mais il y avait un là-bas du temps d'Akab qui se tenait dans la parole de Dieu, Élie. Pour lui, la parole de Dieu et la parole de Dieu était pour lui la seule chose. Et il a apporté la parole de Dieu et sa vision était en accord avec la parole de Dieu. Un homme qui se pense spirituel, bien ça se fait appeler prophète, ou bien penser être un prédicateur. Comment est-ce que vous pouvez alors écouter un trinitaire? Comment est-ce que vous pouvez baptiser alors dans les titres et prétendre que vous êtes loin du Saint-Esprit? Comment est-ce que une telle personne peut avoir de faux enseignements et prétendre être loin du Saint-Esprit? Ce n'est pas possible. Je sais que cela n'est pas populaire. Nous ne voulons pas être populaires. Nous voulons être sincères. Bon. Et Jézabel et Akab. Bon. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Regardez tes femmes. Elles continuent avec leurs ongles bizarres et leurs maris leur permet de s'habiller comme ça et de faire ce qu'elles veulent. Ils n'osent même pas leur dire la vérité en face. Hein? Vous pensez que c'est en ordre? C'est la parole du Seigneur, je vous le dis. Et la Bible dit que si une femme s'habille d'un vêtement qui appartient à un homme, qui appartient à l'homme, c'est une abomination. Comment est-ce que peut Dieu changer ses pensées et devenir Dieu? Une femme ne doit pas porter un habit d'homme. Vous avez besoin d'un vrai prophète pour comprendre que cela c'est un signe de la fin des temps, un faux signe. Car essayez à parler de cela. Comment est-ce que les femmes vont s'habiller dans la fin des temps? Avec des vêtements même, des vêtements légers, transparents, courts, etc. Mais ils n'ont pas peur, ils ne craignent pas la parole de Dieu. Ils ne respectent pas les réunions. Oh, nous voulons demeurer dans la prière et demander au Seigneur qu'il puisse accorder la lumière du soir. Dieu a promis de grandes choses dans l'église des élus. Vous allez voir ce que c'est que la vérité. Tenez-vous dans la parole de Dieu et vous verrez quelle est la vérité. Laissez les Jézabel et les Akab faire ce qu'ils veulent. Si les femmes commencent à agir comme ça, un peu retrogradées, c'était le temps et l'époque où Élie a apparu. Et c'est comme ça que Élie aussi apparaîtra à la fin. Quand les femmes commenceront à faire de telles choses, avec le signe de la fin des temps, comme c'était du temps de Lot. Quand les femmes vont commencer à se comporter comme ça, et elles le font déjà maintenant, dans ce temps-là, justement, c'est là que Élie apparaîtra. Il appellera, il corrigera, et il avertira. Et le signe de Dieu sera avec lui. Il ne va pas appeler tous. Non. Il est écrit, ne crains pas toi, petit troupeau, quand il plaît au Père de te donner le royaume. Cela est vrai. Petit troupeau, il est dit. Ce prophète doit être rejeté de tous, mais pas de ce petit troupeau. Car comme Élie, encore, il y avait les 7000 qui étaient là, comme Jean à l'époque avec son petit troupeau, bien sûr. Vous voyez où est-ce que nous nous tenons aujourd'hui? Nous devons revenir à l'original, à la Pentecôte originale, authentique. Revenir aux choses de Dieu, aux expériences authentiques. Bien, mes frères et sœurs, revenez, ne soyez pas séduits ou bien. Ne prenez pas seulement une espérance et dites dans la foi, je l'ai accepté. Ne soyez pas déçus, non. Ne soyez pas satisfaits jusqu'à ce que vous ayez rencontré Dieu de face à face et que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et si l'Esprit en vous est en vous, alors il va vous apporter à vivre en obéissance avec les Écritures, avec la parole de Dieu, en accord avec la parole de Dieu. Demandez à Dieu de vous ôter tout ce qui veut vous faire penser différemment. Car l'Esprit de Dieu va se lever dans la fin des temps. Il va avertir tout ce qui est faux, contre tout ce qui est faux. Et à l'époque, il avait été dit, pensez pas que vous avez Abraham comme père. Et vous, Béthodiste, Baptiste, ne pensez pas que vous pouvez dire, nous avons ici ceci et cela. Non, Dieu est capable de ses pierres de faire apparaître des enfants d'Abraham. Ne pensez pas que vous, c'est une excuse que vous pourrez avoir parce que vous êtes religieux. Non, vous n'avez aucune excuse devant Dieu. Vous devez croire comme Abraham. Dites seulement ce que Dieu a dit. Dans la véracité, à la fin des temps, en accord avec la prophétie. Je voudrais encore ouvrir cela. J'ai beaucoup d'écritures que j'ai écrites. Je voudrais encore les lire. Deutéronome, chapitre 18. Deutéronome, chapitre 18. Maintenant, pour finir, je voudrais lire ce verset encore. Deutéronome, chapitre 18. Nous voulons voir, c'est le verset 20, oui, au chapitre 18, Deutéronome 18, verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux. Dieu, ouais, au pluriel, petit d, ce prophète-là sera puni de mort. Spirituellement, donc mourir spirituellement, c'est la mort spirituelle. L'âme en lui doit mourir. Nous avons pas un seul Dieu, pas des dieux. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Comment est-ce que nous pouvons savoir? Car beaucoup vont parler. L'un dit ceci, l'autre dit cela. Et comment est-ce que nous devons savoir? Donc, sois attentif. Car en ce que dira le prophète, quand le prophète parle au nom du Seigneur, que ce qui l'annonce n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Si Dieu ne l'a pas dit, si ce sont des choses que Dieu n'a pas dit, alors ne craignez pas. Alors tout est en ordre. Oubliez et allez de l'avant. Si ce sont des choses que Dieu n'a pas dit. Regardez ce que nous écoutons aujourd'hui. On entend parler du credo des apôtres, credo des baptistes, credo des presbytériens. Qu'est-ce que c'est tout cela? D'où cela vient? Moi, je vous défie tous de me montrer où est-ce que les apôtres avaient un credo. Cela n'existe pas. Si les apôtres avaient quelque chose, alors ça, c'est ceci. Repentez-vous et que chacun se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est ainsi que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car cette promesse est à vous et pour tous ceux qui sont au loin, qui seront appelés par le Seigneur. Vous voyez, nous sommes dans un état terrible. Un vrai signe non perçu. Vous êtes des hommes et des femmes. Et vous êtes des enfants de Dieu. Ne l'oubliez pas. Ne manquez pas de percevoir ce signe. Nous devons avoir ces choses. Nous devons les posséder. Et cela doit s'accomplir dans ce temps dans lequel nous vivons. Cela est les heures avant le retour du Christ. Il faut que cela soit annoncé de la part de Dieu. Et je voudrais vous lire cela. Nous voulons aller dans Malachie. Ce que Dieu a promis, vous devez le posséder. Cela est le dernier livre de l'Ancien Testament. Regardez ce qui est écrit ici dans Malachie. Écoutez ceci ici. Bon. Malachie 3. Ici, il dit au verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est un Jean qui a annoncé la venue du Christ et il est venu dans le temple, tel que cela a été écrit, en tant qu'ange de l'alliance. Lui, l'ange qui était dans le désert avec le peuple d'Israël. Croyez-vous qu'il était le messager? Bien sûr. Il a dit, je viens de Dieu et je repars à Dieu. Bon, pourquoi est-ce que Paul a eu une maladie qui l'a conservé humble et petit, après que Jésus fut mort et enseveli et fut ressuscité, et qu'après plusieurs années plus tard, Paul, alors que Paul l'avait rencontré sur le chemin de Damas, et il venait de Dieu, il est allé à Dieu. C'était une grande lumière, la même colonne de feu. Vous savez de quoi je parle? La même colonne de feu. Et Paul parle. Et Dieu, le Seigneur lui parle. Et Paul parle au Seigneur. Les autres ne le voyaient pas, mais Paul le voyait. Et il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il a dit, qui es-tu? La réponse était, je suis Jésus. Lève-toi et va dans la ville, dans la rue appelée droite. Et là-bas, j'ai un prophète. Il te dira ce que tu dois faire. Et il est allé, il a été pris là-bas, il a invoqué le nom du Seigneur, il a reçu le Saint-Esprit. Et Paul a dit qu'il a une faiblesse dans la chair, un démon qui l'a frappé. Vous voyez? Et il a reçu un coup l'un après l'autre. Et il a dit, trois fois, j'ai demandé au Seigneur de me l'ôter. Et le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Et il a dit, pour que tu ne t'élèves pas à cause de toutes les révélations que tu as reçues. Il avait plus que Pierre, Jean et Jacques et les autres. Il le voyait. Peut-être après qu'il soit reparti deux ou trois gens. Et il a rencontré Paul dans la colonne de feu. Oh, quel grand jour c'est. Maintenant, après 2000 années presque. Et il vit encore. Et il lui a été donné ainsi ces choses pour qu'il ne s'élève pas. Et il savait qu'il avait vu le Seigneur là-bas dans la lumière. Et il a été conservé humble et petit. Il était celui qui a parlé du baptême au nom de Saint-Jésus-Christ. Il était celui qui pouvait dire, je ne suis pas allé à l'école pour l'apprendre. Je ne suis même pas... Après 14 ans, je ne suis même pas allé à Jérusalem. Je suis allé en Arabie. 3 ans et demi, je suis resté là-bas dans les déserts. Et j'ai étudié. Et j'étais là-bas dans la présence de Dieu. Et après 14 ans, je suis revenu. Et après 14 ans, j'ai comparé cela avec les apôtres des premières heures. Et c'était la même chose. Amen. Il savait que cela est vrai, c'est juste. Tout ce qu'il a prêché pendant ses 14 ans. Écoutez cela ici. Malachie 3. S'il vous plaît, si vous le voulez, je voudrais encore lui expliquer rapidement. Vous voyez, j'espère que je me suis correctement écrit ces versets. Nous voulons le voir. Matthieu chapitre 11, je me suis aussi noté. Matthieu chapitre 11. Ici, c'est où Jésus a parlé à ses disciples. Et alors que Jean écoutait qu'il était en prison, lorsque Jésus eut achevé, Jean ayant entendu verset 2, Matthieu 11, verset 2, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Vous voyez, ses yeux d'aigle ont été un peu affaiblis. Jésus leur répondit au verset 4, Matthieu 11, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce qui se passe. » Jean était un prophète et il savait que s'il entend ce qui se passe ici, il saura que je le suis. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et toutes les dénominations sont unies. Non, cela n'est pas écrit comme ça ici. Non. Cela ne se fait pas entendre correct. Non, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et l'évangile est annoncé aux pauvres. Vous voyez? Quand ils sont repartis, il a dit, sauvez celui qui ne sera pas... Celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Celui qui n'a pas honte de moi. Celui qui ne s'égare pas. Celui qui n'a pas honte de moi. Qui ne trouve pas un scandale. Alors qu'ils allèrent, comme ils en allaient, verset 7, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Soyez attentifs à ce prophète. Qu'est-ce que vous vouliez voir dans le désert? Est-ce que vous vouliez voir un roseau agité par le vent? Non, ça c'était pas Jean. Oh, vous, génération, vous, race de vipères, qui vous a averti de la colère à venir? Ne pensez pas à Dieu, nous appartenons à ceci et à cela. Dieu est capable de faire apparaître des enfants d'Abraham de ses pierres. Aucun vent l'a agité d'ici et là. Qu'est-ce que vous voulez voir? Un homme qui est dans les palais et habillé d'habits précieux? Non. Ces gens-là sont dans des maisons de rois. Non. Qu'êtes-vous donc allé voir? Ce sont ces prédicateurs-là qui saluent les enfants, etc., ici et là, qui
et qui se font bien voir partout et qui exposent des choses intellectuelles dans les prédications, sont pleins de prétentions et pleins d'envie. Voulez-vous voir une telle personne? Il leur a posé la question. Non. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Un prophète? Oui. Oui, et je vous dis, plus qu'un prophète. Bien sûr. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'il était? Il était plus qu'un prophète. Il était un prophète et il était le messager de l'heure. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Un prophète? Je vous dis, plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face, devant moi, pour qu'il ferait ton chemin, pour qu'il ferait mon chemin. Vous voyez Malachie 3, je vous envoie mon messager devant moi. Soyez attentifs. Malachie 4, ici, Malachie 4, au verset 23, voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Malachie 4, premier verset, voici, le jour vient ardent comme une fournaise, tous les hautains. Regardez, ça c'est aujourd'hui. Regardez dans la rue, tous ces hautains. Hautains, orgueilleux. Il n'y a pas longtemps, Malachie 4, verset 1, j'allais quelque part et je parlais avec des personnes. Et quelques-uns sont passés. Et alors que ces gens étaient en train de passer, il y a quelque chose qui m'a parlé dans mon cœur. Ce sont des gens qui vont être dans quelques d'un moment à l'autre. Donc, ça ne va pas durer. Ils vont manger des atomes. Ils vont devenir de la poussière. Oh, je pensais à moi-même. Je n'aurais pas dû dire ces choses. Mais quand ils sont passés, cela m'est venu une pensée. Prépare-toi, Saint-Terrain. C'est la raison pour laquelle j'attends. Car voici ce jour-là vient qui brûlera comme un four. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Et tous les ouvriers d'iniquité seront comme du chaume. Qu'est-ce qui se passe? Vous les fermiers, vous savez. Quand un feu lourd vient sur un champ, après la moisson, qu'est-ce que c'est? Après l'ensemencement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui reste? Si un vent transporte le vent, le feu. Oh, le jour arrive qui brûlera comme un four. Et ce jour-là le brûlera, il est écrit ici. Rien ne leur restera, aucune racine, rien ne leur restera. Rien ne leur restera, rien du tout. Même les racines seront consumés. Mais vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice avec guérison sous ses ailes se lèvera. Et vous sauterez comme des veaux. Et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Le verset 3. Dit l'Éternel des armées, souvenez-vous de cette chose au jour que je préparerai. Ils seront comme de la cendre. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Et maintenant, écoutez, voici, je vous en ferai. Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, le jour terrible et redoutable, ce jour grand et redoutable, ça ne pouvait pas être Jean. C'est pas possible. Car le monde autrefois n'a pas été détruit comme cela est dit ici, après la venue de Jean. Non, comme dans Malachie 3, au commencement, il a été dit, préparez le chemin devant moi. Ça, c'était Jean. Mais maintenant, avant que ces grandes bombes-là tombent, ces grandes bombes-là tombent, alors avant cela, il y viendra. Et il retournera le cœur des pères aux enfants et des enfants aux pères. Sinon, je viendrai de peur que je ne vienne frapper de pays d'interdit. Vous voyez, cela a été prophétisé à l'avance. Vous dites ça, c'était Jean. Bien sûr que Jean était le messager de l'alliance et Jésus l'a confirmé comme nous l'avons dit. Mais il n'était pas le Élie qui devait venir. Non, cela n'est pas possible.
Car si c'était Jean, alors la prophétie ne serait plus correcte. Car autrefois, il n'y a pas eu de destruction après le ministère de Jean. Rien est allé en cendres autrefois, non. Voici, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible résultat de l'Éternel vienne. Et ça, c'est la première chose, retourner le cœur des pères aux enfants. Vous voyez, le message pour la nouvelle dispensation apportée. Autrefois, les pères juifs ont été apportés à la foi des enfants qui ont été nés au commencement. Et maintenant, pour la deuxième fois, il est dit, le cœur des enfants, le ramener à la foi des pères. Du message original de l'église primitive. Regardez, dans Apocalypse 3, vous voyez de nouveau cela a été prophétisé. Dans Apocalypse 3, nous sommes à la fin. Mes frères, cela est vrai.
Ton amour m'appelle, Saint-Esprit.